Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement. Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, au sommaire de Ça dit quoi, nous allons commencer par la parole aux animaux avec Coco et ensuite, comme thème de la semaine, nous parlerons transition professionnelle et nous parlerons aussi un peu politique avec ce sentiment de représentation en politique. Et nous finirons bien sûr avec le mythique jeu de Dieu. Et oui, c'est Ça dit quoi. Bienvenue, Top Jingle. Eh oui, rebonsoir à toutes et à tous. Salut l'équipe, ça va ou quoi ?
Salut Loïc.
Salut.
Oh là là, ça fait énormément plaisir. On a Malik Eudy avec nous aujourd'hui.
On peut l'applaudir.
Non, faut pas exagérer.
Mais s'il a demandé, il a demandé qu'on l'applaudisse quand même.
Bah écoute, tant qu'à faire.
C'est le grand retour de Malik Eudy à Mon Paris FM. Comment tu vas, Malik ?
Bah ça va super bien. Je suis content de vous revoir, les amis. Jason,
plaisir partagé.
Ouais, ça Loïc, fait plaisir. Sophia aussi que je découvre. Et puis c'est tout.
et ça va depuis. Qu'est-ce que tu racontes ? De beau.
Ben écoute, je vais comme la France. Donc,
Okay. Aïe. Ça va pas très bien.
Je suis à l'image de mon pays. Je vais comme la France. Donc c'est voilà, c'est un peu boiteux.
En plus, en ce moment, il fait pas très beau et tout.
Oh mais écoute, on est au mois de décembre. Hein. Que demander de plus ? Tu t'attendais pas quand même à du soleil ?
Ben moi, j'aime bien le froid sec. Tu vois pas le froid quand il pleut et tout. C'est pas très agréable.
Bah écoute, s'il pleut pas, les agriculteurs déjà qu'ils ont beaucoup de problèmes. T'imagines ?
C'est vrai.
S'il y a pas de pluie, hein, là, ça fait beaucoup.
Ah ouais, mais
là.
S'il pleut, ça gèle.
On salue nos agriculteurs.
Bah, tu restes à la maison, Coco.
Et agricultrice, douteuse.
Agricultrice, je pense,
c'était un test, Jason. Ouais. Et oui, vous l'entendez, c'est Jason à la technique. Ça va, Jason ?
Bah écoute, ça va.
Ta semaine ?
Bah écoute, je vais me plaindre comme la plupart des gens, il fait froid. Mais non, sinon à part ça, bah écoute, ça va tranquillement, fait aller.
Il y a de l'événement en ce moment au Centre Paris Anime ?
Il y en a pas mal qui se préparent, il y en a eu en fin de mois de novembre, là on a eu une jam session. Et ouais, il y a pas mal de choses de prévues en décembre, donc ça va pas mal bouger.
En décembre, il y a une jam session aussi ?
Non, mais il y a un événement jeunesse, là, le 21. Et puis, il y a deux, trois petits trucs aussi.
Si, ce soir, il y a un truc.
En fait, tu m'as même pas donné envie de venir assister à quoi que ce soit. Tout est lapidaire comme ça.
Il y a un micro, je sais plus quoi.
Bon, si t'as pas la bonne info, Coco, ça sert à rien non plus.
Le 21, c'est quoi ? C'est une fête de fin d'année ?
Ouais, c'est ça, un peu de fin de saison. Enfin, d'année, pardon, plutôt.
Ouais, fin de saison aussi. Fin de saison 2024, quoi.
C'est ça.
Il y a une rétrospective genre Spotify ou pas ?
Bah, c'est marrant que t'en parles, parce qu'on était en train d'en parler avec Coco en off, là, justement. Et ouais, c'est quelque chose sur lequel on va se pencher, ouais.
Ah, c'est bon, ça. C'est bon à savoir. Ouais. Et nous avons aussi notre monument, le monument de la radio, Coco. Ça va, Coco ?
Ça va, toujours.
Ça a été ta semaine ?
Impeccable, toujours.
Ouais, t'as fait quoi de beau ?
Accueil, ah ouais. Saxo.
Coco, en fait, ça y est, c'est le nouvel employé du CPA Oudiné. Elle ne le sait pas encore.
On va lui faire la surprise.
Beaucoup d'accueil cette semaine.
Ouais.
Ouais.
Même et c'est comme la semaine dernière.
Et c'est comme ça, d'ailleurs, que tu as rencontré Sophia.
Oui.
Oh, la transition.
C'est... Ouais, t'as vu ça. Il y a du métier maintenant.
Oh là là. Ça, c'est du Pascal Proust, ça.
Je ne vous permets pas de dire ça, Malik. Sophia, comment allez-vous ? Comment vas-tu ? On peut se tutoyer ?
Ouais, tu peux me tutoyer.
Sophia, nouvelle arrivée. Bonjour, Sophia.
Bonjour.
Bonjour.
Comment ça va ?
Ça va très bien.
Bienvenue à... Ça dit quoi ? Bienvenue à Mon Paris FM.
Merci.
Comment a été ta semaine ?
Très bien.
Très bien.
Ouais, j'ai passé une bonne semaine.
Ah, bah voilà, un peu de joie dans le plateau.
Faut mettre un peu de soleil, voilà.
Sophia, on vit pas dans le même bled. Donc,
il y a un microclimat au-dessus de ma tête. Non, ça va, bonne semaine.
Et ben en tout cas, bienvenue encore une fois. Et on ne le présente plus, hein. Lui aussi, c'est le monument de la radio, le monument de Mon Paris FM. Il a été là depuis les débuts de la radio, depuis
avant
les premiers jours de la radio, depuis son inauguration. C'est Alborz. Ça va, Alborz ?
Salut tout le monde, quel plaisir.
Ouais, toujours.
Le cercle des poètes disparu aujourd'hui. On voit des visages là, qui font plaisir à voir et des nouveaux visages aussi.
T'as vu
ça fait très plaisir. Je pensais qu'on allait être 7.
Si, mais on n'est plus que 6. Sam s'est perdu un peu en
déjà,
chemin.
Déjà, toi, tu parles pour 3. Moi, je parle pour 2,5.
C'est vrai. C'est vrai. Bien.
Sophia, on ne sait pas. On va découvrir.
Ah, mais ça se compense avec Jack qui parle pour personne.
Génial, merci. Ouais, c'est cool.
Ça a été ta semaine, Alvaro?
Écoute, à titre personnel, pas ouf, mais on relativise. Ça va, on n'est pas en train... On n'est pas sous génocide, tu vois. Donc ici, ouais, ça va quand même, on respire.
Exactement.
Mais c'est pas facile quand même au quotidien. Hein. Ouais. C'est pas facile.
Tu suis un peu l'actualité politique toujours ?
Oh oui, je suis. J'étais à l'Assemblée nationale hier.
Ah.
Par voir des voitures et des keufs, j'ai pas vu grand-chose parce que j'étais à l'extérieur.
T'as
mais,
pas vu de baston ?
Non. Il y avait une manif aujourd'hui.
Mais t'es allé
place
pour quoi, alors ?
Bercy.
T'as pas pu rentrer ?
Non, moi je suis pas accrédité aux quatre colonnes. J'étais parti prendre un peu le pouls.
Tu étais au balcon ?
J'étais côté rue de l'université, entre le Bourbon et l'entrée derrière le Parlement.
Ah, okay. Okay. Mais c'est pas ouvert à tout le monde, l'Assemblée nationale ?
Alors, c'est ouvert à tout le monde si tu vas aller visiter avec ton député. Maintenant, pour rentrer comme ça dans la salle des quatre colonnes, non, c'est quand même très contrôlé.
Ouais, il te faut une accréditation.
Il te faut une accréditation, puis là-bas, c'est quand même très langue de bois, donc tu vas pas aller chercher le scoop du siècle là-bas. Mais effectivement, c'est chaud, quoi. Il est quelle heure, là, d'ailleurs ?
Il est 19h07.
19h07, hein. Il n'y aura pas de Premier ministre ce soir.
Non, pas encore. On pourra demander à Abou de faire en sorte que tu aies une accréditation,
ouais,
pour l'Assemblée nationale. C'est possible.
Ça peut se faire, on verra le prochain gouvernement.
pas envie peut-être.
Si, non, mais c'est des endroits qu'on vu et revu, c'est intéressant là en ce moment. Après, tu vas un mercredi classique, franchement, c'est quand même très boring.
De toute façon, t'as juste à mettre la chaîne Assemblée nationale.
Ouais, voilà, tu mets la chaîne parlementaire. Mais après, pour le coup, t'as raison. Moi, je conseille à tout le monde, tous ceux qui sont curieux, qui veulent aller visiter l'Assemblée nationale, vous pouvez y aller via votre
surtout
via
pour
votre
les
député,
plus jeunes.
Pour les plus jeunes, c'est super intéressant.
On peut donner des idées, des envies.
Et après ce tour de table, on va se faire un peu... c'est quoi déjà le nom ?
Les faits marquants.
Les faits marquants.
Oui, mais toi, t'as pas dit ta semaine.
Bah, on s'en fout, en vérité.
Moi, ma semaine, ça a été. Ouais, belle semaine aussi. Semaine un peu speed en ce moment. Les semaines se ressemblent. Hein. Elles sont speed. On arrive en fin de semaine et on se dit « Ah, la semaine est déjà passée » et rebelote. Et après, on arrive encore en fin de semaine et on se dit « Ah, la semaine est déjà passée » et rebelote. On est déjà en fin 2024.
T'es en train de nous dire que t'es dans une routine.
Ouais, un peu.
Déjà ?
Ouais, c'est fou hein, quand même. Hein. Mais je vais sortir de cette routine. Je vais faire ce qu'il faut.
Bah écoute.
L'effet marquant.
Wait and see.
L'effet marquant de la semaine.
C'est qui le woo sur le jingle ?
Non, c'est personne d'ici.
Okay.
Ça, c'est la voix de Léo, non ?
C'est la voix de Léonard.
Oh, ouais, je reconnais.
D'ailleurs, on le salue, Léonard, qui est en cours cette semaine.
C'est ça.
Toujours les cheveux bouclés ?
Je sais pas, je sais pas, son futur projet capillaire, mais...
non, l'actuel.
L'actuel est toujours dans le même...
Avec des bigoudis.
Je crois qu'il y a eu une petite teinture, là, de
fait. Il met des bigoudis, tout ça.
Oh, l'ancienne bigoudis. Ça me rappelle ma maman, le dimanche, qui mettait ses bigoudis et tout. Oh là là.
C'est ce qu'il fait. Là, en fait, je conclue que les absents ont vraiment tort dans cette émission.
Ah oui, alors là, bien sûr. Alors, si t'es pas là, à la prochaine...
Là, je suis obligé de venir toutes les semaines.
Franchement, attention.
À chaque émission.
Fait marquant de la semaine, on va commencer par Coco.
Oui.
Au hasard comme ça, allez.
Au hasard, c'est.
Fait marquant.
Le crash d'un avion à Villejuif.
Quoi ?
Hier.
Ah ouais ?
Le 4 décembre, il y a eu un crash d'un avion de tourisme à Villejuif.
Alors désolé, c'était pas hier.
C'était le 4. On est
non,
le
mais
5.
C'était il y a 2 ans. Ils reviennent sur une histoire qu'il y a eu il y a 2 ans. Mais c'était il y a 2 ans.
Mais pourquoi ils en ont parlé hier ?
Parce que justement, il y a eu des infos sur les moteurs et le pilote, mais c'était en 2023.
Bim, prends ça.
Bim. Eh ben, ça fait rien, moi, je l'ai appris.
Désolé, mais je préfère dire la vérité aux auditeurs.
C'est dur.
Oh là là.
Désolé, excuse-moi. Mais sinon, après, c'est moi au montage qui vais devoir. Tu vois ?
Merci,
pour te défendre, Coco.
Parce que moi-même, j'étais là, je dis, attends, comment ça se fait que j'ai pu passer à côté de ça ?
Moi aussi, on n'a pas entendu les pompiers qui passaient pas très loin.
Et dire qu'on est dans le 13e, en ville voisine. Justement.
Ah, moi, je suis gentil, moi je l'aurais entendu la vie.
Mais pour te défendre, Coco, 2024 moins 2023, ça fait 1 an, pas 2 ans, mais
quoi?
C'est pas grave.
Oui, mais là on est en fin d'année, non mais ça va, ouais. Essaye pas de.
Non, mais c'est pas
non, mais
grave.
Désolé,
moi,
je ramène simplement la vraie information. Je me
pour
fais
moi,
taper,
ça a été un fait marquant que j'ai lu.
Bah, du coup, on zappe alors.
Fait marquant de l'année, Coco, vas-y.
Ouais, bon, mais il n'y a pas eu de mort.
Ah, dommage. Bah, bah,
super. Ah, tout le monde va bien.
Un crash d'avion,
tout le monde
sans,
va bien.
Sans...
Ouais, non, c'est,
bah,
parce
c'est bon,
qu'il
on
y
s'en
avait...
fiche alors.
Il y avait un formateur de 82 ans, il y avait le pilote formateur et un élève. Et donc, il y a eu une histoire de... Il y a...
De carburant.
Il y a... Ouais, il y a 6 réservoirs. Il y en a 2 principaux. Il y en a 4...
De secours.
Auxiliaires. Mm. Okay. Et donc, il y a eu un mélange avec un auxiliaire. Il y a un moteur qui s'est arrêté. Oh. Donc, il a fallu... Mais voilà.
Il a mis du diesel dans le sans-plomb.
Ouais, à peu près.
Mais il n'y a plus de diesel à Paris, il faut lui dire. Ouais. C'est fini. Et donc, du coup, voilà. Il a raté son examen.
Alors ça, ils n'en parlent pas.
Il est vivant déjà,
pas,
c'est pas mal.
Il n'y a, juste... a même pas une mort. Enfin, non, il ne faut pas le prendre comme ça. Il n'y a pas une mort, c'est déjà bien. Il n'y a eu qu'un avion qui s'est vraiment...
Eh bah, tout est bien qui finit bien.
Tout est bien qui finit bien.
Et on revient en 2024 avec Jason.
Waouh, tu me prends de court parce que je n'ai pas eu le temps de... Voilà.
Mais tu peux revenir sur
voilà,
mon
ça, c'est les mauvais
marquant,
élèves.
Si
on les met en avant, les mauvais élèves.
Ouais, non, là, est-ce que j'ai le temps d'avoir le reste de... De la table et puis après je...
Je vais faire un truc maintenant dans l'émission, je vais mettre des bons points et des mauvais points.
Oh, ça devient
comme à l'école.
Tutorial.
Voilà, okay. Je suis le maître...
le maître des horloges.
Alborz, dis-nous que t'as un fait marquant Alborz, il en a toujours.
C'est plus une image, c'était l'image de Jean-Luc Mélenchon hier au balcon de l'Assemblée qui s'est fait inviter. Puis tu sentais que le vieux, tu vois, il était content, il regardait le truc, il regardait tous ces petits là, insoumis qu'il a bien formés et tout, qu'il a bien biberonné. On lui reprochait souvent d'être la figure de proue et pas donner la place aux jeunes. Donc il regardait un peu tout ça fier. Et voilà, hein, il attend sa 6e République. Mais l'image de Mélenchon de retour à l'Assemblée, comme ça, assis, la manière dont
il
toisait...
Pas, du coup.
À noter qu'il n'est plus, il n'est plus député. Hein.
Il n'est plus député, ouais.
C'est quoi, donc sa présence n'était pas obligatoire.
Peut-être lui, exactement. Il a une accréditation, du coup.
Bah, lui, il est invité par les gens de sa formation politique, effectivement.
Il fait quoi, maintenant, Mélenchon?
Il tricote.
Mais il attend son heure.
C'est horrible.
Non, il fait plein de choses. Il lit beaucoup. Ça a toujours été un féru d'histoire, de littérature. Et je pense qu'effectivement, en sous-marin...
Non,
lire
beaucoup,
il tricote,
ça, à la limite, on s'en fiche un peu. Vie publique, il fait quoi?
Peut-être qu'il va sortir un livre. Je le vois bien sortir un livre.
Ouais, mais voilà. Il en a sorti.
Voilà, il a le temps, du coup.
Je pense qu'il
y a bien Bruno Le Maire entre tous ces
entre
mandats.
Entre ces livres de boules et... Ouais,
Malik.
Yes, I.
Ton fait marquant de la semaine.
Bon, je ne sais même pas si je peux appeler ça un fait marquant. Ben, puisque c'est mon fait marquant, j'ai regardé une série là, que j'avais mis du temps. À chaque fois, je la voyais sur une plateforme que vous connaissez tous. Je me dis, il faut que je la regarde. Et j'ai commencé en début de semaine là. Et depuis, j'ai pas lâché, même à ma pause, je regardais ça sur mon smartphone et tout ça. C'est une série justement qui parle politique. Hein. C'est une série danoise qui s'appelle Borgen. Mmh. J'ai regardé ça, après j'ai pas décroché, il a fallu que je termine ça et j'ai terminé ça seulement hier.
Ah ouais.
La 4e saison et franchement, j'invite toutes celles et ceux qui ont aimé peut-être House of Cards par exemple d'aller voir cette série-là parce que franchement ça vaut le détour. Et puis on est en plein politique hein, côté français, donc je pense que c'est l'occasion justement de voir un peu tout ce qui peut se passer au sein de la politique de façon générale. Et c'est d'autant plus intéressant que cette fois-ci c'est incarné par une femme.
Exactement.
Une actrice que je découvre hein, quelque part et qui ma foi tient bien son rang, tient bien son rôle. Donc ça s'appelle Borgen, allez-y le voir si vous pouvez.
Sur quelle plateforme?
Sur Netflix.
Sur Netflix, ok.
Ouais, c'est très entraînant et franchement, ça vaut le détour.
Et cette série, du coup, ça se retransforme... Enfin, tu fais un peu l'analogie avec la politique française?
Un peu, oui, parce que de toute façon, ça... Mais un peu, c'est un peu moins méchant. Parce... J'ai regardé, par exemple, House of Cards, que j'ai beaucoup aimé, mais tu sentais que là, c'était très méchant, quoi, très incisif.
C'est aux États-Unis.
Oui, ça, c'est aux États-Unis. Et là, en l'occurrence, là, c'est aussi au Danemark. C'est aussi tranchant, mais avec un peu moins de méchanceté, selon moi.
Désolé, je ne sais pas qui touche à son pied de micro, mais s'il pourrait faire attention, ce serait
pas
cool.
Moi.
Alors, Lessie n'aime pas les raies. s'il pouvait faire attention.
Merci.
Ouais, je suis sur toi aujourd'hui.
Ouais, j'ai l'impression. Tu sais quoi, je n'ai pas de fait marquant.
Ça vaut le coup. Ça vaut le coup.
Mais en France, on a aussi.
Il y a Baron Noir.
Cadmérade, c'est
Cadmérade,
ça.
Cadmérade, ouais.
Bah, qui a été tourné en grande partie ici, à côté de l'Armée du Salut, qui a été le siège.
Oui, c'est vrai que c'est un lieu de.
Hier aussi, il y avait un tournage ici.
Ouais, bah, ceux qui étaient là il y a un mois.
Exactement, parce que je pense
c'est sûr, il y a un mois ou il y a un mois
d'il y a deux ans.
Non, il y a.
Non, House of Cards est très bon. Borgen est très bon, effectivement.
Ah, tu l'as vu ?
J'avais commencé à l'époque sur Arte. Je me souviens, ça passait sur Arte et tout. Ah, mais il y avait le côté, cette première. Madame Schmitt. Non, j'oublie comme.
Brigitte. J'oublie le nom.
Macron ?
Non, non.
Ha 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 ha. Non, qui était vraiment pas mal. Après, dans le même délire aussi, US, il y a Scandal aussi, avec Olivia Pope, Kerry Washington,
oui,
aussi, que j'aimais beaucoup.
Scandal.
Il y en a des séries politiques.
Mais en tout cas, tu m'as donné envie de regarder.
Non, franchement, ça vaut le coup. Vas-y.
Je vais regarder ça. Et Jay, c'est bon ou on passe à Sophia ?
À Sophia, moi je sais pas, j'ai rien qui me vient à l'esprit, donc j'ai pas envie d'aller chercher quelque chose qui n'existe pas.
Il t'est rien arrivé cette semaine. C'est...
Mais rien de spécial.
Bon, on s'est partagé un fait divers.
Ouais.
Et Sophia, toi, ton fait marquant de la semaine.
Alors, mon fait marquant, c'est la grève d'aujourd'hui.
Ouais.
Donc il y avait une grève de la fonction publique. Du coup, j'ai fait une petite recherche pendant que vous parliez. C'est quand même, la fonction publique, c'est quand même une personne sur cinq. Qui est concerné, donc un travailleur sur cinq, donc
beaucoup.
C'est pas rien. Ouais, 20%. Alors, du coup, souvent on se dit qu'il y a trop de fonctionnaires et tout ça, mais en réalité, ça a quand même baissé hein, depuis quelques dizaines d'années. Systématiquement, il y a une baisse. Donc, quand vous avez une démarche à faire, etc., on se dit ah mince, mais on s'occupe pas de moi. Ben oui, mais bon, faut peut-être lier ça aussi au fait qu'à un moment donné, il y a eu une baisse du nombre de fonctionnaires. Bref, ce n'est pas la raison pour laquelle les fonctionnaires étaient dans la rue, c'est parce qu'il y a un projet de loi qui serait de faire payer, enfin plutôt de ne pas indemniser les fonctionnaires pour leurs arrêts maladie. Donc à l'heure actuelle, il y a un jour de carence, donc ça s'appelle des jours de carence. On est à un jour de carence qui a été remis il y a quelques années. Et donc là, l'idée, ce serait de faire passer à 3 jours de carence.
Comme nous, comme le normal.
Bah, d'ailleurs, comme c'est ce qui est dit, justement.
Ouais, comme le privé.
C'est ce qui est mis en avant de dire, oui, mais vous voyez, dans le privé, il y a 3 jours de carence. Alors déjà, la première chose qu'on peut dire par rapport à ça, c'est que pourquoi niveler vers le bas ? Pourquoi ne pas faire en sorte que tout le monde soit mieux indemnisé ? Première chose. Puis la deuxième chose, c'est c'est pas exactement juste de dire ça, dans le sens où dans le privé, il y a énormément de salariés dont les jours de carence sont pris en charge par le jeu des caisses d'assurance,
des mutuelles,
etc. Donc bon, on sait très bien comment le gouvernement communique de la façon dont il a envie de communiquer. Et c'est un peu la manière dont il présente les choses.
Mais les fonctionnaires ont quand même de bonnes mutuelles aussi.
Oh non.
Non, surtout les contractuels. Hein, ils ont vraiment... des fois, il n'y a pas de mutuelle. Hein.
La SNCF, ils ont pas de bonne mutuelle et il n'y avait pas de perte de salaire. Hein.
T'as déjà, vous aussi, dans la fonction publique, Cosette ?
Non, mais j'ai côtoyé quelqu'un pendant 21 ans dans la fonction publique.
Et toi, Malik, du coup, t'as fait les deux. Ouais. T'as fait privé et fonction publique. Alors, du coup, toi, qu'est-ce que t'en penses de cette...
Moi, tu me connais, franchement. Moi, je dis merci hein, au bon Dieu. J'ai une bonne santé, jusqu'à aujourd'hui, en tout cas. Mais c'est, franchement, c'est pas des choses que je regardais.
Ouais. D'ailleurs, t'es pas du genre à être malade.
Non, je touche du bois, encore une fois. Mais je veux dire, en fait, que de façon... C'est ma nature, en fait. Tout ce qui est les avantages, les machins, surtout quand tu es fonctionnaire, je ne serais pas parti sinon, tu vois, de la fonction publique si je regardais tout ça. D'ailleurs, quand je partais même, tous mes collègues me disaient « mais t'es fou et tout ça, machin ». Mais je suis quand même parti, je ne suis pas plus malheureux qu'avant, quoi.
Toi, qu'est-ce que t'en penses, Alborz ?
C'est vrai qu'il y a un fantasme en fait en France autour de la fonction publique. Il y a quoi ? Il y a 5 millions de fonctionnaires en France. Il y a le fantasme autour du fonctionnaire où ce sont des tirons flancs, ils sont payés à ne rien foutre, ils ont des super primes. Non, la réalité est beaucoup moins folichonne que ça. Alors, à moins que vous ayez ceux de la fonction publique catégorie A qui sont vraiment dans des postes, sinon, c'est vraiment une vie assez.
Basique,
classique, et je pense que c'est même un piège où parfois effectivement certains corps de la fonction publique se complaisent un peu dans ce truc-là. Moi, je l'ai vu quand j'étais à la ville de Paris. En fait, il y a un moment, je me suis dit, mais tu vas cligner des yeux et tu vas te réveiller, tu auras 50 ans, ouais. Et en fait, tu vas rentrer dans un schéma qui fait pas rêver. Alors des fois, tu auras des petits, ce que tu penses être des avantages, mais qui sont juste en fait un petit nonos à ronger, tu vois, des petites miettes de pain. Mais arrête, je connais la nature humaine, hein, on s'habitue vite.
Moi, c'est vrai que pour avoir bossé dans la fonction publique et tout, Je comprends un peu ce truc-là de se poser la question des jours de carence, en sachant que dans la fonction publique, il y a pas mal d'arrêts maladie qui se mettent. Et souvent, pour le coup, j'avais des collègues, ils te disaient je vais partir en week-end, je vais poser un arrêt, tu vois.
Dans le privé, ça le fait aussi.
Exactement. Mais il y a ce problème-là, j'ai l'impression. Je ne sais pas si ça se passe comme ça aussi dans les autres pays, mais en tout cas en France, il y a ce truc de j'ai un petit rhume, je ne vais pas aller travailler.
Si tu es enrhumé, tu ne vas pas travailler. Moi, j'invite les gens qui sont enrhumés, malades, à ne pas aller travailler. Hein.
Mais moi, personnellement, ça tient qu'à moi personnellement, mais il faut vraiment que je ne puisse pas me lever de mon lit pour ne pas aller travailler. Parce que ne pas aller travailler, déjà, ce n'est pas que toi que ça touche. Ça touche aussi l'équipe avec qui tu travailles. Il suffit que moi, je travaillais beaucoup dans l'animation. Une personne absente, ça fait qu'il y a un groupe d'enfants qui n'a pas d'animateur ou d'animatrice. Du coup, ça se dispatche sur les autres groupes. Du coup, ça
mais
fait
un virus ambulant, ça peut être tout aussi dangereux. Hein, si tu viens travailler malade, c'est pour ça.
Ouais, mais
se protéger, c'est
non,
protéger.
Il y a malade et malade.
Il y a malade et malade.
Quand je te dis un rhume, en vrai, il n'y avait pas grand chose. Ouais. Tu vois, c'est vraiment. Tu es fatigué ce matin, vas-y, je vais pas travailler. J'ai un médecin qui met des arrêts facilement. Je vais aller le voir, il va me mettre l'arrêt. Après, c'est pas tout le monde. Bien sûr, c'est pas tout le monde et il faut être protégé quand on est malade. Mais c'est vrai que moi, il y avait ce petit côté-là qui me dérangeait.
Ouais, on est pareil.
Qui vraiment me dérangeait.
Là-dessus, je veux quand même rétablir une vérité par rapport à effectivement des a priori que beaucoup ont. Les études montrent que les personnels, parmi tous les salariés de tous les domaines confondus, ceux qui sont les moins absents, moins absentéistes, c'est les fonctionnaires publics d'État et dont les enseignants.
Ouais.
Or, ça rejoint un peu ce que tu disais.
Les enseignants, c'est vrai qu'ils sont pas.
C'est qu'un enseignant qui est malade, ça se voit tout de suite. Si la maîtresse de votre enfant, elle est absente, on peut pas se cacher derrière son petit doigt, derrière un écran d'ordinateur, on a éteint l'écran et on n'est pas dans son open space. Donc c'est plus visible. Et je pense que c'est aussi lié à ça, le décalage entre la perception de la réalité et la réalité. Mais la Cour des comptes l'a établi, et il y a d'autres études qui l'ont montré, c'est que ce sont parmi les personnels les moins absentéistes.
Mais pour le coup, c'est vrai que dans l'éducation nationale, moi, je vois pas trop d'absence, plus que ça, les profs, vraiment, pour qu'ils soient absents, faut vraiment y aller. Mais j'ai aussi l'impression que c'est le serpent qui se mord à la queue, dans le sens où les conditions de travail font aussi souvent les arrêts. Et si c'est pas un rhume ou quoi, il y a aussi la santé mentale qui joue pour beaucoup. Le fait de pas se sentir bien au travail, tu te dis j'ai pas envie d'y aller. Déjà, le fait d'aller à reculons au travail, c'est quelque chose qui est hyper compliqué. Et du coup, tu te mets en arrêt parce que t'as pas envie d'y aller et tout. C'est un peu le serpent qui se mord à la queue. Du coup, pour éviter les arrêts, faudrait peut-être pas augmenter les jours de carence, mais peut-être faire en sorte que les conditions de travail soient optimale pour que les gens ne pensent pas à se mettre en arrêt.
De toute façon, il y a moins d'argent, donc tous ces avantages-là sont en train de sauter les uns après les autres. Hein. Ça, c'est factuel. Et là-dessus, il n'y a rien à dire. Après, pour des métiers comme tu fais cas, tout ce qui est infirmier, aide-soignant, prof, institut, tout ça, c'est des métiers, la plupart du temps, c'est des métiers de vocation.
Ouais.
Donc les gens ne vont pas là-bas parce qu'ils seront riches ou quoi. C'est des gens qui ont envie de transmettre, qui ont envie de donner un coup de main. Donc ça aussi, je pense que ça joue aussi dans la balance. C'est peut-être aussi pour ça que quand on parle d'augmentation de salaire ou des conditions de travail au-dessus de la moyenne, ça finit par ne pas arriver. Et je pense que ça n'arrivera même pas. Moi, j'écoutais un témoignage il n'y a pas très très longtemps où, je ne sais plus, c'était dans quelle ville de France, où dans un hôpital, il y a un patient qui s'est retrouvé hospitalisé dans le parking.
À Roubaix, je crois.
Il s'est retrouvé hospitalisé dans un parking parce qu'il n'y avait plus de place de disponible. Ils étaient trois ou quatre dans le parking en question, avec tout ce que ça comporte comme danger, comme risque. Donc ça, aujourd'hui, c'est une réalité. Il n'y a plus d'argent, on nous le dit, mais il va falloir qu'on s'y fasse et qu'on ait un nouveau paradigme par rapport à tout ça.
C'est vrai. D'ailleurs, on en parlera tout à l'heure en parlant politique. Et toi, Jay, du coup, t'as un fait marquant ou pas
Non, toujours pas de fait marquant, malheureusement.
Dommage, on n'aura pas de fait marquant, Jay. T'as une mission pour la fin de l'émission, c'est de trouver un fait marquant.
On va essayer.
Moi, mon fait marquant, c'est plus soft, hein. C'est un peu comme Malik. C'est la sortie d'album surprise de Kendrick Lamar vendredi dernier, le K-Dot, comme on l'appelle. Moi, je l'appelle le King, parce que pour moi, c'est vraiment le roi du rap en ce moment, le roi du hip-hop, même de la culture. Il a sorti un album vendredi dernier qui s'appelle GNX. GNX pour les anglophones. C'est un album surprise, un album de 12 titres. Personne s'y attendait. Vraiment, il a sorti ça en sous-marin. Il a prévenu personne. Et une fois que c'est sorti, là, il a commencé à faire la promo en sortant des clips et tout. Ça a fait un peu un gros bruit dans le milieu du rap parce que j'ai écouté l'album. Je l'ai écouté 3-4 fois maintenant. Et franchement, je peux dire que si j'ai un mot à dire pour définir cet album, c'est hip-hop. Vraiment, il est revenu aux sources du hip-hop du West Coast, avec des références à Tupac, des références à The Roots, des références R&B. Franchement, c'est un album de qualité. Après, au niveau des prods, j'ai l'impression qu'il est un peu moins travaillé que ses précédents albums, où là, c'est vraiment de la prod faite par ordinateur, avec du sample et des beats ajoutés. Mais ça n'enlève pas la qualité. Très bon album de Kendrick Lamar. J'invite tout le monde à l'écouter.
Moi, j'ai juste un truc à rajouter, c'est que je suis contente qu'il ait sorti un album, ne serait-ce que pour ne plus entendre Not Like Us.
c'est vrai, Not Like Us qui est l'album le plus streamé de l'année, streamé de l'année sur Apple Music,
mais qui est également aussi notre pause musicale, donc on va l'écouter tout de suite à l'instant.
Exactement.
Je m'en vais.
Non, mais c'est ouf parce que je sais pas si tu te souviens, Malik, j'avais parlé dans Weekend Africain du clash entre Kendrick Lamar et Drake. Et justement, Drake dernièrement a fait jouer ses avocats.
Il veut 2 milliards.
En fait, il a accusé une boîte de prod d'avoir gonflé les streams de Not Like Us. Ce qui s'est avéré faux, et pour le coup, le fait qu'il ait fait ça a augmenté les streams de Not Like Us, qui est repassé premier cette semaine avec la sortie de l'album de Kendrick, et du coup ça lui a fait encore plus de pub. J'ai envie de dire bravo à Kendrick. Sans transition aucune, on va passer à la parole aux animaux.
Les animaux. Les animaux.
Bon, ben il y en a que 3. Hein. Donc, alors, disparu dans le Calvados dimanche 1er décembre, une jeune Jack Russell a été jetée par ses ravisseurs sur le périphérique de Paris avant d'être secourue.
Jetée
de la voiture.
En route, en marche, du coup.
Ouais.
Oh, c'est horrible.
Et donc, un monsieur qui était derrière a stoppé sa voiture, a essayé de récupérer la petite chienne et elle a retrouvé ses propriétaires.
Fumer la plaque.
Elle a été jetée. La petite chienne a été kidnappée dans le Calvados.
Ah, d'accord. Ok, waouh.
Emmenée sur Paris et sur le périphérique. Peut-être que la petite chienne, elle les a mordus, parce que c'est dynamique hein, comme chien.
Ouais, Jack Russell, c'est...
Donc je pense qu'ils l'ont jeté par la fenêtre, pensant qu'ils avaient un petit caniche, et là...
Oh. Oh là là.
Il a peut-être saboté...
Ça se kidnappe des chiens.
Ouais.
Je ne savais pas, ok.
Il y en a plein, puis ils demandent des rançons, puis c'est cher.
Ah oui, d'accord.
Parce que maintenant,
ah oui,
les gens, ils
ont l'argent derrière. Business. C'est ouais. Ils se modifient la voix et tout, j'ai votre chien.
Mais je vais l'entendre.
Donnez-moi une preuve de vie.
Bon, enfin, le deuxième, c'est dans l'Essonne. Donc, le 23 novembre, l'alerte donnée par un passant qui a cru entendre des cris de femme à l'arrière d'un fourgon à Grigny a permis de retrouver 3 chèvres enfermées et ligotées. Elles étaient en état de choc et de déshydratation. Quand une chèvre est extrêmement stressée, elle pousse un cri très particulier que l'on peut effectivement prêter à un être humain.
Tu saurais le faire ?
C'est un hurlement, carrément.
Il faut juste nous montrer, juste pour...
Je suis pas chèvre.
Ça date pas de 2020, ça.
Non, c'est là... C'est pas parce que je me plante sur une qu'il faut m'assassiner sur les autres.
Non, mais
hein.
Ça y est, c'est bon, Cosette, c'est parti.
Qui aime bien châtie bien.
C'est vrai que les cris de chèvre, ouais. Je sais pas si vous avez déjà entendu, c'est.
Bah, déjà, quand elle parle elle-même,
tu vois pas ce que c'est.
Ah, c'est vraiment,
Cosette,
c'est un hurlement.
Un bruit de chèvre.
Tu sais si... faire, toi, pas penser.
Je vais pas m'aventurer.
Aussi, les loups aussi. Hein. Les loups.
Ouais, c'est vrai que les loups, c'est assez impressionnant. Mais je pense souvent au bled, dans les villages. Justement, il y a les chèvres que tu entends crier la nuit et tout. Et ça fait peur. Tu te dis, c'est quelqu'un qui hurle vraiment.
Mais une souris, essaye de tuer une souris, tu verras comment ça hurle. Je te jure, c'est affreux. Un lapin aussi.
Je ne vais pas m'aventurer
moi
dans
non
ça
plus,
non plus
je veux pas.
Tuer une souris.
J'ai suivi un jour
à la limite,
des chasseurs.
Kidnapper et demander une rançon.
Le lapin n'a pas été tué, mais ça crie, c'est affreux.
Ok.
Donc depuis, tu n'as pas envie de manger de lapin.
Mais du coup, là, les chèvres ont été kidnappées aussi ?
Ben, les étaient, chèvres.
Elles étaient attachées
elles
à l'arrière.
Étaient, ouais, à l'arrière. Donc, on ne sait pas si c'était pour après être tuées et mangées.
D'accord.
Mais.
Waouh.
Non, ça y est, là, elles sont bien. Elles sont hébergées dans un centre et tout. À l'abri, elles ne seront plus jamais mangées. Plus jamais attachées.
C'est bon de la chèvre ? Ça se mange ?
Moi, j'en mange pas particulièrement.
Oui, ça se mange, ouais.
Ouais, ça se mange.
Oui, j'avoue, je n'ai jamais mangé de chèvre.
Moi non plus, mais ça se mange.
Alors, la plus horrible, en Seine-et-Marne, en mars 2024, une propriétaire a brûlé son chiot avec un sèche-cheveux à Logne.
Ah ouais.
Elle a brûlé quoi ?
Son chien. Son chiot, ouais. Elle était convoquée devant le tribunal correctionnel de Meaux le 2 décembre. Donc, ne supportant plus le chiot récemment acheté par son compagnon, elle en est venue à brûler vif sur près de 40% du corps avec un sèche-cheveux.
Mais il faut y aller quand même pour le brûler avec le sèche-cheveux.
Ouais, alors elle a expliqué qu'elle avait essayé de laver le chien. Enfin, elle a lavé le chien, après elle a sorti, elle a voulu le sécher. Et le chien, il couinait quand elle passait le sèche-cheveux, mais c'était trop chaud pour le chien, donc il couinait. Et donc ça l'a agacé. Elle a approché le sèche-cheveux sur la peau. Et elle a cramé comme ça sur 40% du truc.
Et qui c'est qui l'a balancé là ? Son compagnon ?
Non, c'est parce que...
Du coup, c'est son ex-compagnon.
Au bout de 2 jours, ils se sont décidés, parce que ça commençait à purulé. À suppurer, pardon, purulé.
On avait compris, t'inquiète pas.
Et donc, ils l'ont emmené chez le véto, et là, le véto les a un peu dénoncés.
Oh, mais du coup, c'était un accident, en vrai ?
Non, c'est pas un accident, parce que...
S'il l'emmène chez le véto, c'est qu'il tenait au chien, quand même.
Du oui, coup. Mais deux jours après, le chien, il a souffert, le martyr. Oh. 40% du corps brûlé.
Wow.
Il y en a, ils sont bêtes aussi. Hein.
Ouais.
Comme l'histoire du chat dans le four micro-ondes.
C'est quoi, déjà, what c'est des gens qui les mettent à sécher.
C'est ouais, parce que une dame qui a voulu laver son chat, et pour le sécher, elle a mis au four micro-ondes. Et après, elle a tenté un procès aux fabricants du four micro-ondes en disant « Ouais, mais vous n'avez pas écrit qu'on ne pouvait pas mettre les chats. » Et du coup, maintenant, ils écrivent qu'ils ne peuvent pas mettre un chat.
Vraiment, il n'y a que les Américains pour faire ça.
Aussi.
Ouais.
Non, mais là, si tu veux, elle a écopé parce que le chien avait à peine 3 mois. Il a été emmené chez le véto pour fracture de la hanche.
Ah, avant ça, avant ce fait-là.
Avant ça. OK. Donc là, elle a été...
C'était sa deuxième tentative.
Mince, il veut pas mourir.
Ouais, elle a écopé d'une peine de prison avec sursis, mais je ne sais pas de combien de mois, d'une amende, on ne sait pas de combien, mais elle a une interdiction à vie de détenir un animal.
D'accord.
Elle peut aller chercher n'importe où. Personne ne le saura. Donc,
en tout cas, plus personne ne va lui offrir.
Non.
Je pense.
Et on ne sait pas si elle est restée avec son copain. Si oui, le copain est un abruti, je lui dis.
Si vous nous écoutez.
Ouais. Sinon, ben, tant pis. Hein. Peut-être qu'il finira aussi brûlé à 40% avec un séchoir.
Il y en a qui ont des animaux autour de la table ?
Ouais.
On l'a déjà fait celle-là, mais là, on a des nouvelles personnalités. Sophia, du coup.
Moi, j'ai un chat.
Un chat.
Ouais.
Il s'appelle comment ?
Bouchon.
Ah,
c'est voilà. Original.
Ouais, bouchon.
J'ai été prise. Monsieur, bouchon. J'arriverai en retard. J'ai été prise dans un bouchon.
Je mets un arrêt. Et toi, Alvor, c'est un animal ?
J'ai pas d'animaux de compagnie, mais je suis souvent chez mon cousin qui a 3 chats. Donc j'ai un peu un lien aussi ouais. avec ces chats, comme j'y suis souvent. 3 fois par semaine. Donc c'est un peu mes chats aussi à moi. Donc, voilà.
C'est marrant, je te vois bien avec un chat.
Ouais, moi aussi.
Je te vois bien avec un chat.
Ouais. Okay.
Ça t'irait bien.
Il y a un lien avec le chat d'Iran ?
Ah non,
non, non, pas. C'est
je connais pas, c'est quoi le chat d'Iran ?
C'est les persans, non ?
Les chats persans aussi, très bien.
Ils sont beaux.
Non, ouais, bah c'est un... C'est un animal quand même qui est assez ingrat, c'est-à-dire que tu vas lui prendre de l'amour et des fois il peut te snober pendant X temps, mais quand il a besoin de toi, il sait.
Il ressemble à l'homme en fait.
Exactement, exactement. Mais j'ai peur, j'aime pas les ongles, j'aime pas les ongles, les griffes.
Bah tu les coupes, hein.
Non mais même là, quand je les vois sortir en mode Wolverine, ça me stresse un peu. Mais j'aime bien caresser tranquillement quoi.
Mais je crois que ça se coupe pas les ongles des chats, si ?
Non, pas totalement.
Il y en a qui les coupent.
Bon, ouais, il faut un peu quand même, un minimum quand même.
Mais il faut d'abord l'attraper.
Il sort pas trop, il se balade pas trop, et il a pas l'occasion de les user, il faut les couper. La mienne, elle sort pas de l'appartement.
Et du coup, faut lui couper. Ouais. Ok. Mmh. Et toi, Coco, t'as un chat ?
J'ai une petite minette que je n'ai toujours pas caressée.
Mais arrête tes conneries.
C'est pas normal. Je trouve ça louche.
Il n'existe pas ce chat. T'es complètement zinzin.
C'est des deepfakes, ces vidéos.
Je veux un selfie du chat et toi ce soir. Sinon, j'y crois plus. Ça fait 2 ans, je l'ai pas caressé. Donc, il vit chez toi, sous ton toit.
Voilà.
Tu viens la manger. Tu vois, on parlait d'ingratitude.
Mais non, mais c'est une petite chatte.
Elle vient jamais frotter sa tête.
Non,
on veut une preuve de vie.
Et ça fait combien de temps, là ?
Ça fait 2 ans, maintenant.
Sors pas les archives. On veut une vidéo avec le journal du jour, là, ce soir.
Elle va nous sortir une photo téléchargée.
Non, mais moi, je l'ai déjà vue pour la défense de Coco. Je l'ai déjà vue.
Oh, elle est trop chouchou.
Oui, on l'a déjà vue.
Non, mais c'est une chatte. Je l'ai adoptée. Elle avait 1 an. Elle sortait de la rue. Elle était au parc de Choisy. Donc, elle a dû s'en prendre les pétards.
Il y a des bons festivals au parc de Choisy.
Des trucs comme ça, et donc.
Et toi, Jason ?
Très peureuse.
Non, malheureusement, non, non.
T'as toujours
non,
pas acquis un chat ouais.
Non, non, parce que là, ça y est, mon appart est. Et le mobilier est presque complet, on va dire.
Ouais.
Mais j'attends encore un petit peu, voilà. Ça se fera quand ça se fera, je ne veux pas précipiter les choses, tout simplement.
Et Malik ?
Non, moi, c'est pas ma cam, ça.
Et tes enfants ou autres, ils en veulent pas ?
Ma fille, justement, elle veut un petit animal de compagnie. Je lui dis, quand tu seras chez toi, ma
cam. Oh là là, c'était la phrase de ma mère, ça.
Je t'aime beaucoup, mais j'ai pas le temps parce que je sais que ça va finir par concerner tout le monde, en fin de compte. Donc, moi, je suis franc, j'aurai pas le temps ni la disponibilité pour.
Même un poisson ou un lapin ?
Non, tout ce qui est aquarium, tout ça, non.
Ouais, aquarium, j'avoue, c'est chiant.
Déjà, il faut s'occuper des enfants, le chat en plus, non, c'est de trop pour moi.
Moi, je te vois bien avec un chien.
Non,
pas un chien à côté de toi.
Les promenades du soir, genre vraiment.
Pas du tout. Tu vois Malik se balader comme ça dans le 13ème et il y a son chien juste à côté.
c'est même pas moi. Je jure, je suis pas du tout animal de compagnie.
Ah ouais.
Après, j'apprécie. J'ai ma voisine qui a deux chiens là. Je sais même plus c'est des quoi même d'ailleurs. Deux gros chiens en plus.
Ouais,
ils sont bien costauds. Je suis content quand je la vois avec les deux chiens, mais moi-même non.
Ouais.
Ça me dit rien, ça me fait pas rêver, rien du tout. J'ai aucune sensibilité pour les animaux de compagnie.
Ouais.
Mais cela dit, je les tape pas. Hein, parce qu'il y en a qui les tapent. Hein,
parce qu'il y avait besoin de préciser.
C'est louche de préciser, j'avoue.
Non, parce que dit comme ça, quelqu'un qui est féru d'animal de compagnie va se dire il est méchant, il a pas de cœur. Comme on dit souvent, hein, comme on traite son animal de compagnie, comme on traite les animaux, c'est comme
on
ça qu'on est.
On traite les humains.
On traite les humains, c'est ce qu'on dit.
C'est pour ça que Cosette et son chat, c'est un peu bizarre cette histoire.
J'ai jamais été d'accord avec ça du tout. Je trouve que c'est du n'importe quoi de dire ce type de propos-là, parce que moi, je ne suis pas animal de compagnie, mais je ne pense pas être un tortionnaire vis-à-vis de mon semblable.
Par contre, il y en a où la relation est, à mon goût, un peu trop fusionnelle, notamment chien-chat. Alors que ton chat ou ton chat ait un compte Instagram, ça c'est ton choix. Il y a pas de souci. Mais quand ça en vient dans une relation un peu limite charnelle entre le maître et son animal, ça se galoche.
J'ai jamais compris ce truc.
Ça j'ai jamais compris.
Chacun fait ce qu'il veut.
Chacun fait ce qu'il veut.
Oui, chacun fait ce qu'il veut, mais j'avoue, moi j'ai jamais compris.
Le plaisir, il est partout.
Et toi, t'as des animaux, Loïc ?
Oui, j'ai un petit lapin, Othello.
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 J'aurais pas dit un lapin.
Ouais, un petit lapin nain.
C'est toi-même ou c'est ta fille ?
Non, c'est moi. Je l'ai eu avant ma fille.
Ah, d'accord.
Ouais, carrément.
Il a plus d'ancienneté.
Il a sa chambre et tout. Elle dort dans la cage. Ouais, il a 7 ans.
Et tiens, je me rappelle que ma belle-sœur nous avait remis son lapin il y a une dizaine d'années.
Vous l'avez mangé ?
Non, c'est pas ça. C'est que mon fiston, là, il a tellement gavé le lapin. Le lapin, il est devenu tout gros.
Ouais, ça...
Mais vraiment, à chaque fois, il lui donnait à manger. Non, il faut s'occuper de lui. Il donne tellement à manger. Et ça, je pense que c'est un épisode qui m'a tellement saoulé que définitivement, j'ai dit stop. C'est bon.
Moi, c'est vrai que ça sait pas se contrôler, les lapins. Si tu leur donnes à manger, ils vont manger.
Avec leur crotte toute ronde, là.
Ouais, exactement. C'est trop marrant.
Puis, des fois, ça pisse, ça sent. C'est bon.
Ouais, ça sent pas trop. Mais les crottes toutes rondes.
Ouais, on dirait des maltésers.
Si vous avez déjà fait attention.
Non, des dragibus.
Des
dragibus. J'appelle ça des dragibus.
Je sais pas si vous avez déjà fait attention à ceux qui mangent des Nesquik.
Ouais, ça peut être très dangereux. Ouais.
En fait, le personnage de Nesquik, c'est un lapin. Et du coup, les Nesquik, c'est des petites boules marron, du coup, les petites crottes du lapin.
Mais franchement, t'as le temps de t'en occuper comme tu veux.
Ouais, franchement, bah, il fait sa vie. Hein. Il a un gros clapier à 2 étages, et même avec une cabane dans son clapier.
C'est ça que j'aime pas. Il faut l'enfermer.
Il a un penthouse, son lapin.
Non, mais ouais, franchement, il a un gros
clapier. La meilleure condition que certains humains.
Après, quand je suis là, il joue sa cage et il sort, il fait sa vie.
Il mord pas les câbles. Il mange pas les câbles.
Il a fait ça pendant une période. Mais après, ça se dresse un lapin.
Mais moi, il s'est pris des châtaignes.
C'est vrai, ça se dresse un lapin. C'est...
J'aurais été en maison, peut-être que j'aurais reconsidéré la demande de ma fille. Ouais.
Peut-être.
Voilà. Mais franchement, un appart, je trouve que c'est pas l'endroit idéal, franchement.
Ouais, ça dépend des animaux.
Oh non, chien, chat, non. En appart, non, je trouve que c'est.
Bah, j'ai même une souris. Enfin, 3 plus 1.
Et d'ailleurs, il va pas à la chasse ?
Mais la minette, elle joue avec. Moi, c'est ça m'éclate de rire.
T'as un chat ?
Ouais.
Des souris.
Mais je sais pas par où.
T'as
elle
regardé,
non, mais déjà tout à l'heure, elle a parlé de tuer des souris déjà. Essaye de tuer une souris déjà. Elle a dit ça.
Mais oui, non, parce que quand j'étais en Corrèze, il y avait des souris. Et puis quand les locataires y venaient, ah, il y a une souris, il faut la tuer. Ouais, ma cache. Tu t'amuses à essayer de la tuer. Moi, je peux pas.
Et là,
pas
t'as plus la souris,
souris
là. Tu l'as plus.
Non, enfin, je sais pas où elle est passée.
Mais
la minette.
Mais si c'était dans la capitale.
Mais sinon,
des souris,
la minette. Ouais.
Elle a rejoint tous ses copains qui sont dans Paris.
Elle a joué avec. Enfin, il y en a eu 2 avec lesquels elle a joué, tranquille. Il y en a une, on l'avait remis dehors avec Loïc.
Ouais.
Et la souris, elle sautait partout dans l'herbe.
Vous pensez que notre débat, là, il est passionnant ?
Ouais.
Ça s'essouffle,
j'attendais la fin, des souris,
sinon,
tout ça.
Antibes, la bonne nouvelle, Antibes, le parc Marine et Land.
Ah, il y en avait une autre ?
Évoque une fermeture.
Ah oui.
Ouais, évoque une fermeture. Oui, mais
ça,
trois mauvaises.
On serait pas...
J'ai oublié que c'était la chronique de Coco.
Trois mauvaises nouvelles, et là, c'est une bonne nouvelle, le parc Marine et Land évoque une fermeture définitive le 5 janvier prochain.
Ah oui,
donc
exact.
Il n'y aura plus d'orques,
les
plus
orques,
de
tout ça,
emprisonnés bêtement dans des...
D'ailleurs, j'ai une petite question à ce propos.
Est-ce que quelqu'un a un orque chez lui ?
Non. vous êtes pour ou contre les zoos ?
Si c'est pour la sauvegarde des animaux,
moi, je trouve que c'est,
ouais,
c'est pas aussi simple.
Mais...
C'est comme une question. Ouais, je suis contre les cirques avec les animaux. Mais les zoos, c'est vrai que souvent, c'est des animaux qui sont en difficulté, qui ont été recueillis, qui sont...
Mais pourquoi on les ramène pas dans leur milieu naturel, alors ?
Mais en fait, c'est pas aussi simple. Il y a une adaptation pour les remettre dans leur milieu naturel.
Ils sont plus autonomes, parfois, peut-être, qu'ils ont besoin de l'aide de l'humain, vu qu'ils ont...
Quoi, ils sont atteints de démence, c'est ça ?
Non, on leur a donné à manger, ils ont plus l'instinct de
ça, c'est
chasseur.
Ce qu'on nous dit, mais moi, je sais pas. Je vous pose la question.
Moi, je pense.
Je vous pose cette question parce que, franchement, il y a quelques années, il y a 2 ou 3 ans, je sais plus, je suis allé, parce que à mon corps défendant, je suis allé au zoo de Vincennes. Mais franchement, non seulement j'étais dessus, le tarif déjà s'est élevé parce que j'ai pu voir et j'avais l'impression de voir des animaux mais en mode dépressif, mais grave.
Ouais.
Je me suis dit, mais est-ce que c'est leur place ?
Ouais.
Je m'interroge.
Ouais, c'est vrai que
je culpabilisais même de payer pour venir les voir.
Alors que ce fameux zoo, avant qu'il soit refait, les animaux, tu les voyais, ils étaient bien. Que là, c'est vrai que moi, je les ai vus après les travaux. Enfin, le zoo comme il est maintenant, c'est vrai que tu as l'impression que c'est plus...
Des
cages pour où on les met et où on te fait croire qu'ils sont en semi-liberté alors que non.
Ouais, c'est vrai que c'est
pas,
spécial. Même le zoo de Beauval.
Est très très cher.
Je suis très réservé par rapport à ça. Des zoos comme ça en pleine ville, non, je sais pas.
Et le zoo de Vincennes, je trouve qu'il est anachronique de toute façon.
Il est bizarre. Hein.
Quand on y va, on a l'impression de revenir, je sais pas, au 19e siècle,
ouais,
à l'époque où il y avait même encore des gens qui étaient montrés dans des expositions universelles.
J'ai l'impression qu'on est dans le Groenland, là, c'est chaud.
Après, il y a des grands zoos qui utilisent justement cet argument-là que vous utilisiez, la préservation des espèces, ouais, et tout ça. Parce que c'est vrai qu'il y a des espèces qui sont menacées, qu'on ne trouve que dans les eaux.
Et qui se reproduisent bien.
Oui, mais après, c'est vrai qu'il y a la question qui se pose de dire, est-ce que ça justifie le fait de maintenir ce système de zoo dans lequel on a des animaux captifs ?
Ouais, c'est un business, les zoos.
Ouais.
sur ce, on va se faire une petite pause annonce, Jay, et on revient tout de suite après pour les débats de la semaine.
Rejoignez Lucas pour une plongée captivante au cœur de la sphère politique avec Politiquement Vôtre. Au cours de cette émission passionnante, un invité politique éminent se confronte aux préoccupations brûlantes de la jeunesse. Ensemble, ils explorent, débattent et cherchent des solutions aux enjeux cruciaux qui dessinent notre avenir collectif. Une émission présentée par Lucas Dru chaque mercredi soir de 21h à 22h.
Et oui, Politiquement Vôtre avec Lucas Dru, présenté par Lucas Dru tous les mercredis soirs à 21h, c'est ça qu'elle a dit ?
Ouais. le même Lucas.
Ouais, le même Lucas.
Oh, salutations,
même,
Lucas.
Le même. Sans transition, je fais que dire transition aujourd'hui, je sais pas. Sans transition,
c'est le terme,
transition.
C'est le mot. Hein,
et d'ailleurs, on va parler de transition professionnelle. Et oui, la transition professionnelle. Je vais sortir quelques chiffres avant de lancer les hostilités. Alors, faut savoir que 67% des actifs en France ont confiance en leur avenir professionnel. Et oui, 2 travailleurs sur 3.
Les fonctionnaires sont dedans ?
Bah, c'est les travailleurs en général. Mais dans la fonction publique, il y a des moyens d'évolution, hein, contrairement à des boîtes privées où l'évolution n'est pas forcément possible. Alors, ce chiffre est en baisse constante depuis 2020. Année où c'était à 75%. Du coup, plus on avance, moins les Français ont confiance en leur avenir professionnel. Parmi ces 67%, il y en a 19 seulement qui sont très confiants. Et dans les autres qui ne sont pas confiants, du coup, il y a 11% qui ne sont pas du tout confiants en leur avenir professionnel. Il faut savoir aussi que 19% des actifs pensent changer de métier d'ici 5 ans. Ils envisagent de changer complètement de travail d'ici 2028. Quand je dis changer de travail, c'est vraiment changer de corps de métier. Hein. Des petits chiffres encore, 21% des actifs sont engagés dans une reconversion professionnelle. Alors, c'est ce dont on va parler aujourd'hui, la reconversion professionnelle. Pourquoi on va parler de ça ? Parce que c'est un thème proposé par Coco. Et en même temps, c'est vrai que j'ai l'impression qu'on est dans une génération où c'est plus comme à l'ancienne, où on reste 20 ans dans la même boîte. Tout à l'heure, on parlait des fonctionnaires. Alborz, tu disais, tu clignes des yeux, tu les rouvres. T'as passé 30 ans dans la fonction publique. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on change de travail, on fait des formations, on change totalement de bord professionnel. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Bah, c'est quelque chose qui s'est beaucoup démocratisé avec le temps. On a tous c'est le cliché un peu du mec qui a travaillé 15 ans à la banque et qui là va tout plaquer pour aller ouvrir une boulangerie dans le 11e où il fait que du pain bio, etc. Mais aujourd'hui, tu sais, t'as le compte professionnel de formation, ouais. Tu peux avec ton CPF, tu peux aller faire d'autres choses. Et puis, tu sais, il y a moins le dictat du truc où vas-y, t'as fait un bac plus 5, machin, et toute ta vie tu vas faire ça. Non, il y a des gens, un matin, ils se réveillent, ils disent, moi j'ai envie de faire de la cuisine, moi j'ai envie de faire ça. Et franchement, je salue hein, ce genre d'initiative. Je me demande même pourquoi, est-ce que j'aurais pas pu le faire à une certaine époque ? Franchement, ne nous fermons aucune porte.
Mais c'est pas tard.
Non, et voilà, il est jamais trop tard. Tu vois des gens de 50, 60 piges qui sont là, ils changent du tout au tout. Franchement, allez-y, hein. Choquez les gens, choquez-vous vous-même même.
Mais c'est pas un peu plus difficile d'ailleurs vers ces âges seniors, 50, 60 ans, d'être dans une reconversion totale et de trouver un travail derrière ?
Moi, je pense que la reconversion, c'est une chance. C'est une chance. Et je pense que la France, justement, nous donne droit d'avoir cette chance-là. Parce que c'est pas évident de le faire dans d'autres pays. Parce qu'en France, c'est davantage une chance. Parce que tu as la possibilité de te former tout en étant toujours rémunéré. Ouais. Donc, je pense que ça facilite les choses.
Avec l'alternance, l'apprentissage et tout ça.
Dans d'autres pays, ce n'est pas le cas. Si tu décides de changer de métier, soit tu prends une année sabbatique quand tu as de la chance et éventuellement, tu pourrais revenir si toutefois, tu n'as pas de solution d'embauche après. Mais ça n'existe pas partout. Donc, je pense que ça, c'est une chance. Et par rapport à ce que disait Alborz, je pense que c'est quelque chose de tellement bien qu'il va falloir foncer, mais vraiment à fond, pour celles et ceux qui hésiteraient, par exemple, à se reconvertir, en tout cas dans un nouveau métier. Je pense que c'est l'occasion rêvée de le faire, hein, surtout quand on regarde un peu l'état de la France qui est en train de faiblir de plus en plus. Si vous hésitez, bien, c'est le moment de le faire, tout simplement, parce que rien ne nous dit que tout ça, ça va durer. Après, tu parlais de l'âge, je pense que c'est justement... autour, tu as parlé de quoi, 50 ans, tout ça?
Ouais, 50, 60.
Bah, mais je pense que si tu as 50 ans, j'imagine que peut-être que si tu as des enfants, une famille, les enfants sont plus ou moins autonomes, bah, c'est certainement même peut-être le moment justement rêvé de le faire. Moi, j'avais une ancienne DRH, quand j'étais au LCL, là, j'avais une ancienne DRH qui a tout plaqué, qui est allée à Nantes, je crois, justement, travailler dans tout ce qui était apiculture.
Ah ouais. Ah ouais,
elle a tout lâché.
De la banque à l'apiculture.
Ah oui, de la banque à l'apiculture, pour te dire, elle et son mari sont partis travailler là-bas. Après, je ne sais pas ce qu'elle devient. Je vois même l'ancien ministre Montebourg.
Elle est dans le miel
aussi,
maintenant.
Lui aussi, pareil, il est dans le miel aussi. Donc je pense que, non, la reconversion, moi je pense que c'est une bonne chose. Surtout que, en général, c'est des choses qui viennent de toi. Après, il faut bien cibler ce que tu veux faire, parce qu'il ne s'agit pas de perdre du temps. Il ne s'agit pas aussi de bloquer des places et puis finalement se dire, non, en fait, ce n'est pas ce que je voulais. Donc, il faut bien préparer le dossier et puis, ma foi, foncer à fond la caisse.
Il y a Jason qui voulait réagir.
Ouais, non, si, je voulais parler aussi parce qu'il y a pas mal de jeunes qui sont de plus en plus concernés par ça, avec des organismes comme Erasmus+, qui donnent l'opportunité, hein, des gens parfois qui n'ont pas du tout travaillé, certes, mais parfois des gens qui travaillent depuis un bon moment déjà et qui sont plus ou moins âgés, parce que Erasmus+, ça ne concerne pas que les jeunes, les moins jeunes aussi, du coup, maintenant. Et du coup, je sais qu'il y a pas mal de gens qui, du jour au lendemain, décident d'arrêter leur taf et de prendre un working holiday, d'aller en Australie, d'aller... On parlait de l'international, certes, il y a des pays qui sont assez limités sur ce genre d'opportunités, mais par contre, on peut aller, je sais pas, au Canada, je sais qu'ils sont assez ouverts sur ça, en Australie aussi. Du coup, il y en a pas mal aussi qui tentent des tafs comme ça aussi, et donc qui plaquent tout du jour au lendemain. Donc je pense que c'est une bonne solution aussi. Donc la reconversion, je pense que c'est une bonne chose.
Mais c'est marrant que tu parles de cette opportunité, Malik, en France, parce que justement, moi, j'ai cette image... de la France par rapport à d'autres pays où il y a ce frein de justement la formation. Quand tu veux faire un métier, il faut forcément te former à ce métier, alors que dans d'autres pays, tu fais des formations plutôt générales et tu peux entreprendre différents métiers sans forcément devoir te former pour ce métier, mais tu l'apprends sur le terrain.
C'est marrant que tu me dis ça, parce que même cet après-midi, je parlais avec un ami à moi qui est très doué dans tout ce qui est informatique et tout ça, infographie et tout ça. Et aujourd'hui, il m'envoie des captures, des vidéos qu'il fait avec l'intelligence artificielle. Et justement, il a quoi ? Il a 56 ans. Je lui dis, mais pourquoi tu fonces pas là-dedans ? Parce que ce que tu fais, t'es en avance sur la plupart des personnes qui s'intéressent à ces sujets-là. Il me dit, Malik, écoute, moi j'ai 56 ans, j'ai un métier, je m'y plais là-dedans. Comme tu le sais, je suis très curieux de tout ce qui est novateur et tout ça. Mais le problème, c'est que si je propose mes services tout de suite, toi, tu me connais, tu sais ce que je peux faire. Mais tout de suite, on va me demander un diplôme,
ouais, c'est ça.
Une formation. Et franchement, je n'ai pas envie de faire ça à 56 ans. Je sais ce que je peux faire, je sais ce que je ne peux pas faire.
Ouais.
Donc, je suis à un âge où je suis en mesure de pouvoir proposer des services à la hauteur de mes compétences. Mais me dire aujourd'hui, il faut aller passer un diplôme pour pouvoir travailler là-dedans, il m'a dit non. Je kiffe ça, je le fais comme ça et puis basta. Donc effectivement, ça rejoint un peu ce que tu dis.
Ouais, ça freine les gens.
On est moins pragmatique en France, c'est vrai. On est beaucoup axé sur tout ce qui est diplôme. Il faut un diplôme pour pouvoir prouver que tu peux faire des choses, alors que parfois, c'est faux.
Ouais.
Parfois, c'est faux parce que voilà, on est tous en entreprise. On se rend compte que parfois, le plus diplômé est celui-là même qui a le plus d'incompétences quand il s'agit de passer dans la phase pratique des choses. Ça, on le constate tous les jours. Mais il n'empêche que ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de diplôme, hein, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais je veux dire qu'il faut peut-être aussi voir les choses au cas par cas et prendre les gens sur le fait accompli. Tu sais cuisiner, c'est ce que tu dis, mais pas sans cuisine, montre-moi ce que tu sais faire. Ouais. Et puis après, il y a ce qu'on appelle la validation des acquis. Le VAE est en marche, laisser les gens travailler.
C'est une bonne opportunité.
Et puis
aussi.
Au fil de l'eau, après, leur demander peut-être de faire une VAE pour pouvoir être diplômé. Moi, je préfère ce système-là, prendre les gens tout de suite dans ce qu'ils savent faire et puis on avise.
Les former sur le terrain.
Ah ouais, on avise, parce que les diplômes, c'est très bien, mais ça ne fait pas tout. Hein.
Toi, Alborz, te connaissant, t'as beaucoup changé de métier.
Bah, je me suis adapté aussi à la réalité du marché. Après, j'ai fait une formation journaliste avec médias communication, mais c'est vrai que je suis passé par des trucs qui n'ont vraiment rien à voir avec ma formation initiale. Alors, si tu n'es pas heureux et tu le fais pour le faire vraiment en mode « il faut manger », bon bah voilà, tu vas le faire. Mais si tu le fais vraiment et tu découvres quelque chose qui te plaît, c'est quelque chose de très enrichissant, tu vois. Après, il y a aussi la France qui fait que des fois, tu te retrouves avec un CV, tu as fait tellement de choses différentes, on va dire non, mais monsieur, il faut se spécialiser par contre, tu vois. Ouais, ça peut refroidir aussi, certaines personnes aussi.
Il faut adapter ton CV aussi par rapport à ce que tu recherches.
Exactement.
Ouais, t'es pas obligé de tout mettre, tu voulais dire, Malik.
Non, j'ai une question pour Alborz en fait. C'est que tu as fait journalisme, mais pourquoi tu es rentré dans le jeu? Parce que tu aimais ou parce que tes aptitudes à l'école te permettaient de le faire, ou c'est parce que peut-être tu ne savais pas quoi faire?
Non, je l'ai fait parce qu'il y avait une envie de le faire. C'était aussi un moment de ma vie, c'était le début de ma vingtaine, où c'était la chose qui m'animait. Après, avec le temps maintenant, à 30 piges, j'ai un regard aussi sur le monde des médias, sur les journalistes qui a changé. Mais je me considère aussi toujours comme journaliste et comme un médecin qui n'exerce plus après 20-30 ans et dira je suis médecin.
Bah d'ailleurs, on va se tourner vers Sophia, parce qu'il me semble, toi aussi, t'as opéré une reconversion professionnelle.
Ouais, en fait, j'en ai fait plusieurs des reconversions. Mais d'ailleurs, ça m'inspire une réflexion par rapport à ce que tu disais, c'est que pour pouvoir... la chance qu'on a d'être en France, elle tient effectivement au fait qu'on a la possibilité de pouvoir, pendant une certaine période, se former. Se former sur autre chose que notre formation initiale. Ça, donc, c'est essentiellement dû au système d'assurance chômage de notre pays. C'est un système qui est menacé à l'heure actuelle et qui a été déjà bien réduit par rapport à ce que moi, j'avais connu. Donc, si je prends une de mes expériences pour illustrer un petit peu ça, j'ai travaillé... ma première expérience professionnelle, ma première carrière, je l'ai fait dans le monde de la finance. J'ai été licenciée économique. Et le licenciement économique, c'est des conditions qui sont plus avantageuses qu'un licenciement classique.
C'est-à-dire tu ressors avec un chèque.
Oui, alors comme je n'avais pas travaillé beaucoup...
C'est l'image qu'on a.
Oui, c'est vrai que pour simplifier, on pourrait dire ça, mais ce n'est pas tant ce chèque, surtout pour des personnes qui n'ont pas beaucoup travaillé, ce qui était mon cas. C'est surtout que j'avais une indemnité de chômage qui était assez élevée par rapport à ce que c'était de manière classique, et puis qui était... sur la période qui était assez longue. Donc ça veut dire que pendant 2 ans, j'ai pu me projeter sur ce que j'avais envie de faire et je n'étais pas dans l'urgence de retrouver un emploi. Et donc ça m'a permis de suivre une formation de journaliste pendant 1 an. Chose que clairement, je n'aurais pas fait si jamais j'avais eu une indemnité de chômage. Comme c'est l'heure actuelle, ça a été réduit. Alors, je n'ai plus les chiffres exacts actuellement, mais je crois que c'est 6 mois, même 4 mois. Et le gouvernement, en plus, là, n'est même pas d'accord avec les partenaires sociaux qui se sont mis d'accord eux-mêmes pour des nouvelles conditions. Ils ont dit non, c'est trop avantageux pour les chômeurs. Retournez à la table de négociation, alors même que les patrons étaient d'accord pour ça. Ouais. Bref, ça, c'est une petite parenthèse. Je reviens au sujet principal. Donc, quand je fais cette transition, que je suis ma formation, ça me permet du coup de pouvoir travailler comme journaliste. Moi, ce que je retiens vraiment de ça, c'est effectivement que déjà, on a cette chance-là de pouvoir changer de parcours, de changer de voie, et que c'était moins le cas maintenant, à l'époque, quand je l'ai fait, mais autour de moi, on me prenait pour une folle. Je trouve que déjà, il y a une évolution positive par rapport à ça, c'est qu'on c'est un peu plus ancré dans les mœurs actuellement. On parle notamment des bifurqueurs, il y a plein de choses comme ça qui se parlent. Alors, les bifurqueurs, c'est les très hauts diplômés qui décident de pas du tout suivre le parcours qui leur était tout tracé professionnellement. Donc, c'est dans les mentalités actuellement de changer comme ça de métier, etc. Moi, ce que je dirais, c'est qu'il faut vraiment que quand vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous anime, de le préparer, de suivre ça sans forcément suivre les conseils qui vont vous freiner, qui vont vous dire « oui, mais... fais attention, t'es sûr de toi, etc. » Il faut tenter le coup jusqu'au bout, quitte à se planter, parce que l'échec, il est beaucoup trop, craint dans notre pays. C'est pas grave,
c'est vrai qu'il y a
fait.
Des sociétés, des pays
c'est
où
une
l'échec,
mentalité.
C'est bénéfique. Et d'ailleurs, les les plus gros milliardaires, tout ça, ils parlent souvent d'échecs.
Ils n'ont fait que ça.
Ouais, voilà, c'est...
Ils n'ont fait que ça, jusqu'à ce qu'ils finissent par réussir.
Ouais. Ouais. Mais c'est marrant parce que c'est, tu parlais des hauts diplômés, justement, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans des études et qui sont dans un rythme et tout, et qui n'aiment plus forcément ce qu'ils font, mais qui restent quand même parce qu'ils se disent « Ah, mais j'ai fait 5 ans d'études, faut que je continue, après faut que je trouve un travail dedans et tout. » Et c'est en ça aussi l'inconvénient, je trouve, c'est que s'ils veulent changer, il faut qu'ils repartent dans une autre formation en se disant « J'ai fait 5 ans d'études et là, il faut que je reparte dans un truc qui va prendre minimum un an. » Et ça, c'est le minimum. Bon, il y a des formations plus courtes pour d'autres métiers et tout. Mais ça peut freiner aussi, en vrai, cette reconversion.
Bah, c'est le passage obligé. Hein. Sinon, qu'est-ce qui prouverait que tu as fait la formation ? Parce que là, on parle de reconversion. Mmh. Tu es journaliste, tu veux aller dans les métiers, de la maroquinerie, par exemple. Ça te demande, tu es peut-être admiratif du métier en lui-même. Tu as appris les bases comme ça, via Internet, via des bouquins et tout ça. Après, il faut passer à la phase pratique. Tu es obligé quand même, un minimum, d'aller prendre des cours, suivre une formation qui te permettra justement de devenir, maroquinier, par exemple. Là, parce que là, on fait quand même le grand écart. Là.
Ouais, mais est-ce que justement, avec on est en 2024, aujourd'hui, il y a tout sur Internet. Tu peux trouver des tutos, des modes d'emploi. Il y a tout ce que tu veux sur Internet et tu peux apprendre
tu peux apprendre.
À pratiquer, à faire des choses grâce à Internet.
Il y a la vraie vie aussi. Il y a des gens qui exercent des métiers avec passion. Et ces personnes-là, très souvent, elles sont très heureuses de faire découvrir leur métier une journée, une semaine. Je me souviens que justement...
Vie ma vie.
Voilà, c'est ça. C'est un peu le concept de vie ma vie. Je me souviens qu'on m'avait proposé de faire quelque chose qui était un peu de cet ordre-là. Justement, c'était via Pôle emploi, ça s'appelait à l'époque encore. Via Pôle emploi, ils avaient un dispositif comme ça qui permettait de pouvoir aller pendant, je crois que c'était une semaine, suivre une personne sur son lieu de travail.
Cool, ça.
Et de découvrir la réalité d'un métier qu'on peut parfois fantasmer, justement, parce qu'on a regardé des vidéos, parce qu'on s'est renseigné, ou on en a entendu parler. Ça doit être vachement bien. Je reprends ton exemple, travailler dans la maroquinerie, ça doit être trop bien de fabriquer des sacs, de je ne sais quoi. Et puis après, on va sur le lieu de travail, on se rend compte que faire ce métier-là, ça veut dire aussi quelque chose de très physique, peut-être d'usant pour les mains, pour le corps, et on se rend compte que ça ne convient pas. C'est peut-être bien de s'en rendre compte avant de faire une formation.
Non, je disais pas de regarder des vidéos pour se dire « Ah, le métier, il a l'air cool », mais vraiment pour apprendre les choses, parce qu'aujourd'hui, on apprend beaucoup sur Internet. Et notamment, en ce moment, il y a aussi beaucoup de débats par rapport aux journalistes aussi. D'ailleurs, vous allez pouvoir nous en parler peut-être. C'est qu'il y a le débat des influenceurs qui deviennent journalistes et qui, des fois, font plus justement de visibilité que des journalistes eux-mêmes. Je pense par exemple à Sally, je ne sais pas si vous connaissez Sally, c'est une influenceuse, youtubeuse, instagrammeuse, je ne sais pas comment on dit.
Après...
Dernièrement, elle a reçu par exemple Denzel Washington, alors que ce n'est pas une journaliste ou quoi. Et ça fait un peu débat auprès des gens comme quoi ils ne sont pas journalistes, mais ils ont des médias, ils font des vues.
Si tu as pris l'exemple de Sally, il y a d'autres exemples. Mais oui, Sally, après moi... D'autres. Moi, personnellement, je ne suis pas un super fan, mais elle est brillante, elle est intelligente.
Ouais.
Tu vois ce que je veux dire ?
Justement, c'est ça que je veux dire. C'est que
donc, je veux dire que
ce truc-là
elle n'a rien à envier à un journaliste en soi. Après, le métier de journaliste...
Pourtant, journaliste, il faut faire des études et tout.
Oui, il faut faire des études parce que, moi, j'ai pas fait d'études de journalisme, en l'occurrence. J'ai aimé ce métier-là parce qu'il te permet de rencontrer des personnes... avoir des témoignages, vraiment toucher un peu à tout le monde. Après, j'ai fait le métier d'animation, là, ici, notamment, tout simplement, parce qu'à un moment donné, j'avais trouvé qu'il n'y avait pas assez d'émissions afro qui mettaient en avant les événements que nous fabriquions. C'est comme ça que je suis venu un peu au micro, à la radio, et puis, de fil en aiguille, j'ai pris goût, et puis j'y suis resté aussi longtemps. Mais je veux dire par là que si d'aventure tu ne trouves pas de canaux pour exprimer ce que tu as envie de voir, ce que tu as envie de faire, tu peux attendre longtemps, ça ne vient pas. À un moment donné, peut-être que c'est à toi de le faire.
Ouais.
Donc si Sally le fait, après ça, le même Denzel Washington, je l'ai vu aussi sur TF1 à l'occasion de la sortie du film en question. Ouais. Donc après, s'il va chez Sally, c'est qu'à un moment donné, peut-être qu'ils ont envie de toucher un public qui ne regarde pas TF1, tout simplement.
Mais c'est ce que je veux dire par là, c'est que justement, est-ce que c'est des fois c'est pas obsolète ce truc de formation forcément pour atteindre un métier et
la preuve, il y a des influenceurs qui ont beaucoup plus de followers que toutes les chaînes de télévision ensemble regroupées. Un seul influenceur dans sa chambre avec un téléphone, il a 20 millions d'abonnés. Il dépasse France 2, TF1 et tout ça. Bah écoute, le résultat, il est là, c'est factuel. On aime, on n'aime pas, mais c'est la réalité.
Qu'est-ce que t'en penses, toi, Alborz ?
Effectivement, l'audience, c'est indéniable. Après, Malik a raison, il parle aussi de talent. Sally, ça ne me dérange pas, parce qu'effectivement, bon, parfois, elle est un peu agaçante, mais pour le coup, elle est quand même pro dans son truc, tu vois. Un programme que je ne regarde pas, mais qui avait fait polémique il y a deux semaines, c'était par exemple les Energy Music Awards, où c'était Paola Locatelli sur le tapis rouge. Par exemple, là, c'était beaucoup plus difficile, c'était assez poussif, tu vois. Tu sentais qu'il n'y avait pas les codes. Vraiment, ils ont mis la petite, parce qu'elle est influenceuse, elle a du monde, mais elle n'avait pas les codes de l'interview, savoir comment ça se passe. L'anglais était assez approximatif. Donc là-dessus, oui, effectivement, ça pose problème. Et en parlant de journalisme, je vous rappelle que mon ancienne école, le SJ Paris, a été racheté par Vincent Bolloré, Pigas, Saadé, Niel et compagnie. Parce qu'avant, ils allaient chercher les journalistes en sortie d'école. Maintenant, ça va être en sortie de bac directement. Donc, ça se pose aussi une question sur la formation journalistique, tu vois. Donc là, je pense que c'est vraiment la fin des écoles de journalisme.
Tu parles de la formation, de l'idéologie.
Là, ça va aller de pair, malheureusement. J'ai peur que la formation sera assez idéologique, quoi.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que
Pour cette école, en l'occurrence,
quand tu vois que c'est les plus grosses fortunes qui l'ont racheté, qu'eux-mêmes sont propriétaires des plus grands médias, tu crées les journalistes de demain, pour la plupart qui seront là en sortie de bac, tu les biberonnes directement. Avant, il y avait un peu cette indépendance dans les écoles de journalisme.
Tu les biberonnes à quoi ?
En plus, c'est privé.
Leur idéologie, qui est laquelle ?
Milliardaire, buveur de sang, enfin, Malik.
Bon, je sais pas.
Le diable. Le diable en personne.
Non, je pose cette question parce que c'est vrai que je me suis fait la même réflexion que toi à un moment donné. Mais après, quand j'ai poussé un peu l'idée, je me rends compte. Après, tu me dis, toi, tu as fait une école de journalisme, tu me diras. Mais l'ensemble, en tout cas la majorité des journalistes aujourd'hui, même des rédactions, tu me diras, c'est très à gauche quand même.
Non. Non, non. Ça, c'est ce que veut nous faire croire le...
Non, c'est une question.
Non, 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 vraiment pas. C'est-à-dire qu'il suffit d'allumer la télévision ou d'aller sur les différentes chaînes. Je ne pense pas que BFM soit de gauche, je ne pense pas que CNews soit de gauche, ni TF1, même le service public. Alors, il y a France
Inter. Non, après, il y a de nouvelles orientations avec la concurrence qui arrive, mais intrinsèquement, les journalistes qui sont dans des rédactions, quand tu regardes un peu, tu écoutes France Inter et tout ça, machin... Est-ce que ce n'est pas des journalistes, un peu comme dans l'éducation nationale, on se rend compte qu'il y a davantage d'agents qui sont de gauche dans leur approche idéologique.
Je pense qu'il y a plus de profs de gauche que de journalistes de gauche. Hein. Enfin, moi, je prends l'exemple de la télé, même si c'est un média has-been. Je veux dire, touche pas à mon poste, il n'y a rien de gauche. Tu vois, CNews, il n'y a rien de gauche. BFM non plus. Hein, c'est vraiment c'est tout ce qu'il y a de plus réactionnaire. Alors effectivement, si tu mets France Inter le matin et tu tombes sur une chronique, elle peut sonner de gauche. Et pourtant, à France Inter, il y a des gens comme Sophie Aram, qui n'a rien de gauche, tu vois, qui est un peu l'idiote utile du Rassemblement National. Donc je pense qu'il y a de tout. Et là, en l'occurrence, pourquoi ils ont repris le SJ Paris, parce que tu as le SJ Lille qui est la vraie grande école de journalisme en France. Et effectivement, là tu as raison, il y a beaucoup de gens qui sont sortis de l'ESJ Lille, qui ont fini chez Mediapart, qui ont pu finir chez Libé ou à Radio France.
Est-ce qu'au-delà de l'idéologie potentielle, est-ce qu'on ne va pas là aussi, on a une offre d'emploi ? Parce qu'à un moment donné, tu as bossé, tu t'es formé. Tu sors d'école, il faut bien que tu travailles quelque part.
Ouais, mais après, en vrai, même dans une entreprise, Enfin, je sais pas, moi, personnellement, je me vois pas entrer dans une entreprise qui a des valeurs à l'antipode des miennes.
T'as une famille, il faut bien que tu les nourris aussi. Moi, je sais pas, moi, je pose des questions, hein, je sais pas. T'arrives à un moment donné où t'as cherché à aller là où tu penses être justement bien, tu trouves pas. Et on te fait appel dans le média où tu penses que, selon que tu sois de gauche ou de droite en termes de sensibilité, qui te fait appel à l'opposé de ce que tu es.
Mais je sais pas si ça durerait du coup.
Tu fais quoi,
hein? Là, on pourrait parler de reconversion après. Je sais pas si ça dure une personne. Bon, là, on parle de gauche, droite, tout ça, mais en vrai, y a pas, c'est pas forcément.
On fait une petite digression, mais ouais, c'est un mais sujet qui.
Imaginons, je sais pas, quelqu'un de gauche va chez CNews. Je pense qu'au bout d'un moment, c'est soit tu deviens un peu. T'adoptes les idéologies et tu deviens un peu aussi voilà, comme ça, soit bah, ça va te dégoûter, tu vas changer ou même te reconvertir. Mais je pense pas que ça y ait une pérennité dans cette chose-là.
Parce que toi, tu penses que les gens, par exemple, qui sont au PS, Parti Socialiste, sont vraiment tous de gauche?
Non.
Non. Mais tu le vois dans le changement du.
Moi, je pense que les gens vont là où il y a de la place.
Non, mais tu le vois aussi dans le. Non, mais tu le vois, de toute façon.
Après, est-ce que le PS a été de gauche sur ces 15 dernières années?
C'est ça, c'est une question d'opportunité.
Mais tu le vois après dans le.
La preuve.
Là, si on parle de politique, d'ailleurs, on va transiter sur la politique juste après. Quand tu le vois en politique, on parle de PS, mais tu vois que le PS change au fur et à mesure et tu vois que ça va vers une position plutôt à droite. Et des fois, ça revient. Et ça repart et ça voilà.
J'ai même entendu que le Rassemblement National était fréquentable désormais.
on le dit. Oui, Sophia.
Ouais, je vais pas m'apesantir sur le sujet. Je voulais répondre à Malik, mais du coup je vous renvoie juste à un document qui a été fait par une association de critique des médias qui s'appelle Acrimed.
Ouais, je connais. Ouais.
Si ça intéresse certains des auditeurs, donc c'est une carte des médias. Ça s'appelle Médias Français. Qui possède quoi? Et je pense que dans toutes les rédactions, il y a des journalistes de terrain qui ont des valeurs de gauche. Mais je ne pense pas connaître une seule rédaction, un seul décideur qui, lui, ait des valeurs de gauche et qui défend des valeurs de gauche. Et quand bien même ça existerait, ce signe noir, eh bien, au-dessus de lui, il y a celui qui détient le média. Et quand on regarde cette carte des médias, si on prend ne serait-ce que, je ne sais pas, par exemple, Paris Match, qui est détenu par Lagardère. Bon, ben voilà, Arnaud Lagardère, c'est un des 150. Bon, il est que 150e fortune de France, le pauvre garçon. Mais bon, je ne sais pas si je regarde.
Est-ce que la fortune
Bernard
fait
Arnaud.
La politique?
Ben, en tout cas, je pense que je ne connais pas de milliardaire
français. Je pose la question.
Mais d'où le fait d'être propriétaire de ces médias-là? Quand tu es propriétaire de ces médias-là, c'est pas là que tu vas avoir des bénéfices.
Ouais, mais
c'est juste que tu vas influencer la politique justement mise en place.
Et ben justement, en parlant de politique, on parle de politique de gauche-droite. Aujourd'hui, on voit la France se déchire. Hein. En début d'émission, tu as dit voilà, je vais à l'image du pays. On voit qu'il y a eu des
boutade,
élections.
Hein, sinon je vais bien.
on voit qu'il y a des élections législatives derrière. Le vote n'est pas respecté par le gouvernement. On voit aussi en Corée du Sud dernièrement la loi martiale qui a été décrétée pour contrer justement cette demande de. Enfin, le gouvernement qui faisait une demande de budget, une proposition de budget qui a été qui n'est pas passé, du coup, on a mis la loi martiale, du coup, ça a fait toute une révolution des types de l'armée qui venaient sortir des députés, mais du coup, le président derrière, il a dû stopper la loi martiale. On voit en Italie dernièrement les manifestations pour une histoire de budget aussi qui devait passer, mais le peuple n'est pas content, et du coup, on voit que voilà, le peuple est contre le gouvernement. On voit aussi aux États-Unis Trump qui passe avec une sacrée majorité, mais en même temps on voit beaucoup de révoltes contre Trump dans les médias, dans les personnalités. Est-ce que aujourd'hui on se sent représenté par les politiques qui détiennent les pays?
Moi je pense tout simplement qu'aujourd'hui la politique est davantage mondialisée, quel que soit le pays.
C'est-à-dire mondialisée?
Ben, je pense qu'il y a un seul grand et vrai patron. Après, tout le reste, c'est des préfets, des sous-préfets.
Mmh. C'est des marionnettes.
Il y a une décision qui est prise, c'est-à-dire que toi, aujourd'hui, tu es au centre Paris à Nîmes. Moi, je suis quelque part au dernier étage, la tour Montparnasse. Mmh. J'envoie la feuille de route à tous les responsables des différents centres jeunes. Mmh. Vous appliquez la politique. On part du principe que les centres jeunes, par exemple, sont des pays, quel que soit le continent d'ailleurs. Moi, j'envoie la feuille de route, vous appliquez. Vous vous débrouillez, vous appliquez. Moi, c'est comme ça que je vois ça.
Et c'est qui le grand patron, du coup?
Ben, le grand patron, justement, c'est quelqu'un peut-être que tu ne connais même pas, que tu n'as jamais vu et que tu ne verras jamais, tout simplement. Après,
c'est pas trop incognito, quoi.
Incognito, si tu veux.
C'est une force obscure.
Même incognito, tu finis par le voir, quelque part. Mais là, en l'occurrence, je pense que c'est... Moi, je pense que c'est un peu dirigé comme ça, de sorte à déplaire, justement, les différents peuples, les différentes populations. Et ça, quel que soit le pays. Hein. Ouais, c'est pour ça que les gouvernants ont beau faire, ont beau dire, je pense que c'est pas des personnes qui, aujourd'hui, ont vraiment la main. À tel point que ce qui les intéresse véritablement, c'est de garder leur poste,
ouais.
Être réélu, avoir les avantages des différents postes qui vont avec, tout simplement. Mais de là à croire qu'aujourd'hui, un maire, un député, un ministre va changer la vie de la vie de la majorité des populations, je pense que c'est un leurre. Je pense que c'est un leurre.
Ah ouais, et du coup, toi, tu ne te sens pas représenté, par exemple, par ça?
Je pense qu'il faut tracer sa vie comme on peut, avec les moyens qu'on nous donne, et puis essayer d'être le plus heureux possible. Moi, j'ai décroché un peu de l'actu de façon générale parce que regarde un peu ce qui se passe en ce moment en France. Quand tu regardes un peu qui a gagné les dernières législatives, qui sont quasi même pas représentés dans le dernier gouvernement qui a chuté hier.
Ouais. Ça, justement. Ouais.
Ça veut tout dire.
Est-ce qu'on n'arrive pas justement à cette limite de la démocratie qui était présentée comme
je pense qu'on arrive
le
au bout.
Peuple
je pense
vote
que, je pense
et
qu'on...
On suit ce que
moi,
le peuple...
Je pense qu'on arrive au bout d'un système. Je ne sais pas par où ça va passer, mais je pense qu'on arrive au bout d'un système et je crois fermement et fortement qu'il va se passer quelque chose. Je ne sais pas quand, comment, mais il va se passer quelque chose et puis certainement que tout sera remis, on repartira de zéro, je pense.
Ouais. Alborz.
Bah, c'est vrai que c'est assez complexe. Moi, faire voter les jeunes, c'est un peu le combat de ma vie. C'est-à-dire qu'à chaque élection, je me tue.
Mais excuse-moi, je te coupe légèrement, mais c'est vrai que par exemple sur les législatives, il y a eu beaucoup ce truc-là de faire voter les jeunes. Les jeunes sont allés voter,
ouais.
Mais
c'est exactement derrière... ce que j'allais dire. C'est-à-dire que nous, on se bat pour créer une mobilisation, parce qu'on sait que dans nos quartiers populaires, le taux de vote est très bas. Et d'ailleurs, ouais. Le politique le sait. C'est pour ça qu'il ne s'intéresse pas aux quartiers populaires, parce qu'il y a rien à gratter entre guillemets pour lui. Il va là où les gens votent pour lui. Pendant, je me souviens, c'était les européennes. Donc, on a fait tout le combat. Faire voter les jeunes. On leur a dit non, vous inquiétez pas, pendant 2 ans, il n'y aura plus rien et tout. Tac. Ils vont voter. Le soir même, il y a une dissolution. Donc nous, on repart au combat. Non, les gars, il faut retourner voter. Non, mais tu nous avais dit que c'était fini. Non, mais là, c'est exceptionnel et tout. Il faut retourner voter. Il y a un vote. Il y a une alliance, un groupe politique qui arrive en tête. Ce groupe n'est pas représenté derrière. Donc en fait, ça casse tout le. Les gens n'y croient plus. Les gens n'y croient plus, tu vois, ça me rappelle la phrase de Villepin à la fête de l'UMA, justement, où il disait que ça donne raison à la parole évangélique, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Là, c'est le parti arrivé dernier à qui on a donné la tête du pays. Ben voilà, on a bien vu ce qui s'est passé hier, ça a duré 3 mois.
Ouais.
Donc, effectivement, je pense qu'il y aura, comme a dit Malik... quelque chose, un renouveau, sans parler de 6ème République, tu vois, mais quelque chose qui va profondément changer.
Moi, je vais au-delà de la France. Hein.
Oui, à l'échelle mondiale.
Pour le coup, je parlais de pas mal de pays à l'échelle mondiale. On voit dans plusieurs continents, même dans tous les continents, en vrai, on voit que c'est la révolte un peu contre les gouvernements, que ce soit en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Asie, en Afrique, en Europe. On voit, c'est un peu le feu partout entre le peuple et les gouvernements. Toi, en tant que nouvelle journaliste, Sophia.
Nouvelle ? Non.
Enfin, ancienne. Reconvertie journaliste. Pardon. Et tu parlais aussi de politique. Comment tu vois tout ça ?
Comment je vois ça ? Déjà, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est qu'il faut prendre le temps et la mesure de ce qu'on a vécu cette année. On est quand même dans une époque où une information chasse l'autre. Mais quand on se dit quand même que le vote du peuple n'a pas été respecté, c'est quand même pas rien. Il y a un moment donné, on a quand même... on est dans une démocratie ou pas ?
La question, en vrai.
Voilà. La démocratie, c'est quand même le pouvoir au peuple.
Ouais.
Et que ce soit Macron, que ce soit son futur Premier ministre, dont on ne sait toujours pas qui ce sera, et voilà...
tous les dirigeants politiques de ce pays sont censés être au service du peuple. Mmh. C'est ça, normalement. C'est ça, l'idée.
Mais d'ailleurs, il se cache derrière ce, encore une fois, le peuple m'a élu. Mmh. Parce qu'il a été élu.
Et est-ce que le peuple a élu le gouvernement? Enfin, plutôt, est-ce que le peuple lui a donné mandat pour mener la politique qu'il est en train de mener actuellement? La réponse est clairement non. Mmh. Donc voilà, moi, je veux juste remettre un petit peu l'accent là-dessus, dire que ce qui se passe à l'heure actuelle est quand même assez scandaleux. Ce qu'on a vécu cet été, c'est absolument incroyable. Bon, il s'est caché derrière les Jeux Olympiques. Ouais. Il a un timing incroyable, voilà. In fine, on est revenu en septembre avec donc un gouvernement illégitime. Et il se passe ce qui se passe cette semaine, c'est que ça devait arriver tôt ou tard. Est-ce que la suite logique, c'est de dire on remet encore un autre gouvernement tout aussi illégitime parce que personne d'autre ne pourra avoir de majorité? C'est du délire. Et on est quand même dans une fuite en avant, là.
Donc, c'est vrai. Et là, on parlait de François Bayrou, je crois. À un moment, c'était un nom qui est sorti.
Mais ils ont déjeuné ensemble, hein, aujourd'hui.
C'est ouf, François Bayrou, quand même. Moi, je croyais que ça allait, c'était fini, François Bayrou.
Politique, c'est
il
ça.
Il sort
c'est...
De...
Non, à la limite, mais moi, je pense même pas que ce soit... Encore une fois, je pense pas que ce soit une question de personne, de nom,
oui,
de pedigree ou quoi que ce soit.
Oui, je suis d'accord.
De pedigree.
Je pense que c'est une question de politique globale.
Ouais.
Encore une fois. Je te donne la feuille de route.
Ouais.
Tu la suis. Tu fais... ce que je te demande de faire, c'est tout.
Ouais.
Tu ne fais pas le poids, on te dégage comme on peut. C'est tout. Après, c'est comme pour faire un bon plat. Tu as des ingrédients, il faut les acheter, choisir les meilleurs produits possibles, en tout cas qui passent bien pour le commun des mortels, le présenter pour que la pilule soit moins amère. Mais dans tous les cas, la pilule, que tu la prennes directement en sirop, en comprimé ou en injection, dans tous les cas, l'administration, elle sera faite.
Mais c'est quoi la suite, là, selon vous
La suite, c'est de mieux contrôler l'espèce humaine, je pense. Mieux nous régenter, mieux nous gérer,
parce que là, on parlait de
est-ce que vous êtes,
de
vous
votes
êtes, vous
qui
êtes
ne sont
trop,
pas respectés. Est-ce
là,
que les gens vont voter encore?
Des débats
que,
comme ça, là, peut-être bientôt, on ne pourra même pas les faire.
Il va mettre BHL en tant que Premier ministre, et puis c'est tout. Et comme ça, Brigitte et Ariel... pour en laisser balader.
Ce serait un beau duo. Et toi, Jason, alors, toi qui n'aimes pas trop voter.
J'aime pas trop voter, on va dire que j'ai changé d'avis sur la chose. Mais non, je suis tout ça d'assez loin. Après, je vois que c'est un peu le bordel un peu partout. Là, j'ai vu hier. Hein ?
C'est le Capharnaüm.
Ouais, je vois ça.
Ce terme.
Et écoute, ouais, j'ai toujours l'impression qu'au final, on est un peu coincé, entre guillemets, parce qu'ils ont toujours une carte joker pour nous la mettre à l'envers. Quoi. Donc,
final, mais lui, il a un gros paquet
un
de joker. Hein.
C'est ça. Ouais. Du coup, voilà, je comprends qu'il y a certaines personnes qui soient au final désintéressées ou qui soient désemparées par ça, mais...
Désabusées.
Ouais. Et du coup, voilà. C'est pas
mais c'est dur quand même, parce que ça reste quand même... Ça reste quand même nos vies, nos avenirs, l'avenir de nos enfants, tout ça. C'est dur de se dire, en fait, ok, il y a quelqu'un en haut qui donne une feuille de route et après, faut la suivre et après, nous, on doit s'adapter.
Écoute, moi, je sais ce qui est bien pour toi,
plus
que
toi-même. Les révolutions ne se sont pas faites entendre comme ça par le passé.
C'est pour ça que je dis peut-être que tout ça va passer par une révolution de la part des peuples, tout simplement. Mmh. Parce que là, aujourd'hui, le message qu'on nous envoie, c'est un peu ce que je disais à l'instant. C'est « je sais mieux que toi ce qui est bon pour toi ». C'est comme ça que moi, j'interprète tout ça. Et c'est pour ça qu'arrivé à un moment donné, il y aura forcément, je pense, un mécontentement général. On a eu les Gilets jaunes il y a quelques années. J'ai bien peur que, je disais quelque part un tweet, là, je ne sais plus de qui, que ça se transforme en gilet rouge cette fois-ci.
Ouais.
C'est ce que j'allais dire.
T'allais dire quoi?
Je parle pas de toi,
ouais,
Sophie.
Non, mais que les gilets jaunes allaient se mettre
ils peuvent pas
en rouge, le sang allait saigner.
Avec les agriculteurs. Ok, et bah écoutez, on arrive à la fin de cette émission.
Ah, il n'y a pas de jeu de...
Bah non, c'était une blague. Jason sait très bien qu'il n'y avait pas de jeu cette semaine. Et c'était,
oui,
c'était une
blague. Dommage.
On se retrouve bientôt, dans deux semaines. Deux semaines, ce sera Abou ou peut-être moi, je sais pas.
Non, Abou, il sera pas là.
Eh ben, ce sera moi.
La dernière de l'année.
Dans deux semaines, tu fais la mission toutes les deux semaines.
Oui,
maintenant,
maintenant c'est toutes les deux semaines.
Ouais. Pourquoi?
Parce que maintenant j'ai.
T'as reçu une feuille de route, c'est quoi?
Exactement, j'ai changé d'échelon, tu vois, j'ai pris du galon et du coup.
Il est loin.
Une feuille de route différente.
Moi, Jason fait l'émission. Alborz.
Alborz, oui, je pense qu'il est plus.
La continuité.
Alborz, oui.
Bah après le fait de
c'est
faire ça
dit quoi en public, hein, il faut installer.
Une semaine sur deux, c'est ça nous permet aussi de.
On va pas faire pour faire.
C'est pas une quotidienne, ça va. Ouais. Une semaine, c'est bon,
et,
les gars.
Et de toute façon, maintenant, il y a une émission les jeudis.
Ah oui, une semaine sur deux. The Judge.
The Judge. Et c'est d'ailleurs, c'est quoi les...
C'est quoi,
tu peux
ça
nous en parler un peu
En gros, il y a un animateur en tenue d'avocat qui vient et qui vient de parler d'un sujet. Par exemple, c'était, le premier sujet, c'était « Est-ce qu'on peut rester ami avec son ex ?» Voilà. Donc, c'est des chroniqueurs assez jeunes, c'est plutôt...
On a déjà fait ce débat dans ça, du coup. Hein.
Oui, bon, écoute, voilà. Et là, du coup, chacun vient raconter des expériences ou pas, voilà.
Ouais, ça ressemble un peu à C'était mieux avant.
Ça donne des pour et des contre, et ensuite, le juge tranche, voilà.
Et c'est qui le juge?
C'est une animatrice
c'est la personne
qui s'appelle
au-dessus, du coup, qui donne la feuille de route. Hein.
C'est l'animatrice aussi.
Je pense que c'est
ah, c'est Onissa.
Ouais.
Je pense que c'est un concept qui passerait mieux bien en télé, je pense.
C'est,
je crois
ce, que filmé, c'est ce qui était prévu de base.
Ouais,
moi, bon, on va pas non plus développer trop le sujet.
Bah pourquoi?
Ah, pourquoi? C'est pas encore sorti?
Si.
Là, on spoil.
Si, c'est sorti. Vous pouvez aller écouter. Hein.
Ah, cool. Bah écoutez, allez-y, allez écouter cette émission The Judge sur Mon Paris FM, un jeudi sur deux, qui est sur toutes les plateformes, du coup.
C'est ça.
Eh ben, écoutez, les amis, merci, merci d'avoir participé à cette émission. Bienvenue
merci.
Encore, Sophia.
Merci.
Tu reviens quand tu veux. La porte est grande ouverte. Et toi aussi, Malik. Est-ce que j'ai besoin de te le dire vraiment que tu reviens quand
tu
veux?
Ah, moi, tu m'invites. Faut m'inviter.
Okay. Ah, bah, je vois ça. Bah, en fait, il se fait désirer.
Moi aussi, je veux une invitation.
Non, mais faut inviter parce mais que imagine, on arrive, on est 8. Ça.
Bah, après, tu peux juste passer et dire bonjour aussi. Hein, ça, tu peux rien.
Bah, là, il y a un cri qui vient du fond du cœur là de Jason.
J'ai une feuille de route.
Bah écoutez, bah, Sophia et Malik, je vous donne rendez-vous dans deux semaines, le 19, pour ça dit quoi? Ça vous va?
Normalement,
merci,
je serai là.
Ah, cool. Eh ben, on va terminer cette émission tout en musique, mais avant, je vous invite à partager l'émission, à écouter et réécouter les anciennes, même sur toutes les plateformes de stream. Et sur le site Mon Paris FM, on va se quitter avec Kendrick Lamar, le son TV Off, extrait de son dernier album, JNX. All I ever wanted was a black grand national. Fuck being rational, give them what they ask for. It's not enough. Few solid niggas left, but it's not enough. Few bitches that are really stepped, but it's not enough. Say you bigger than myself, but it's not enough. I get on their ass. Yeah, somebody gotta do it. I made them niggas mad. Yeah, somebody gotta do it. I tell the G-Pad. Shit, watch a nigga do it. We survived outside, all from the music, nigga. What? They like, what he on? This the Alpha and Omega, bitch. Welcome home. This is not a song, this a revelation, how to get a nigga gone. Teach you a man, baby, I don't understand, baby. Pay your bill and make you feel protected like I can, baby. Teach you something if you need correction, that's the plan, baby. Don't put your life in these weird niggas' hands, baby. Whoa! It's not enough. Few solid niggas left, but it's not enough. Few bitches that are really stepped, but it's not enough. Say you bigger than myself, but it's not enough. I get on their ass. Yeah, somebody gotta do it. I made them niggas mad. Yeah, somebody gotta do it. I tell the G-Pad. Shit, watch a nigga do it. We survived outside, all from the music, nigga. What? Hey, turn this TV off. Ain't with my type activities, then don't you get involved. Hey, what? How many shit I seen? Send them all. Take a risk or take a trip. You know I'm tripping for my dog. Who you with? Couple sergeants and lieutenants for the get back. This revolution been televised. I fell through with the knickknacks. Hey, young nigga, get your chili up. Yeah, I meant that. Hey, blackout if they act out. Yeah, I did that. Hey, what's up, though? I hate a bitch that's hating on a bitch, and they both hoes. I hate a nigga hating on them niggas, and they both broke. If you ain't coming for no chili, what you come for? Nigga feel like he entitled, cause he knew me since a kid. Bitch, I cut my granny off, and she don't see it how I see it. Got a big mouth, but he lack big ideas. Send him to the moon, that's just how I feel, yelling. It's not enough. Few solid niggas left, but it's not enough. Few bitches that are really stepped, but it's not enough. Say you bigger than myself, but it's not enough.
Somebody gotta do it, got my foot up on the gas, but somebody gotta do it. Turn this TV off, turn this TV off. 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 Ain't no other king in this rap thing, next siblings. Nothing but my children. One shot, they disappearing. I'm in a city where the flag be getting thrown like it was pass interference. Padlock around the building. Crash pulling up in unmarked truck just to play freeze tag. With a bone to pick like it was sea bass. So when I made it out, I made about 50K from a show. Trying to show niggas the ropes before they hung from a rope. I'm prophetic. They only talk about it, how I get it. Only good for saving face, seeing the cosmetics. How many heads I gotta take to level my aesthetics? Hurry.
Move back here, fam.